Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le 19e épisode de la saison 9 de Vue du Banc. Aujourd'hui, on s'intéresse aux nations, puisqu'on enregistre cet épisode quelques heures après le tirage au sort de la Coupe du Monde. On évoquera d'abord l'équipe de France à travers une liste de 23 bleus ou de 26, on ne sait pas encore, qu'on va essayer de construire ensemble avec Florentin Utiz et Christophe Cuffy. Salut Christophe.
Salut Raphaël, salut tout le monde.
Salut Flo.
Et salut Raphaël.
Et on parlera ensuite des matchs de barrage qu'on a vus, à la fois la zone Europe, puisqu'il y a eu des choses quand même intéressantes entre l'Italie et le Portugal, et puis la zone Afrique, où il y a eu des scénarios assez rocambolesques, et on finira par un petit point par point des poules qui ont été tirées au sort, sachant qu'il y a certaines poules qui sont encore indéfinies, puisque certains barrages ne sont pas terminés, et que ça reste à jouer. Messieurs, on va commencer par le point équipe de France. On va pas faire du match par match sur les deux amicaux que la France a disputés, parce que si celui contre la Côte d'Ivoire avait un certain intérêt, celui contre l'Afrique du Sud n'a pas proposé une opposition vraiment passionnante. Il y a eu des bonnes performances individuelles, mais c'est plus intéressant de se pencher sur le cas global de l'équipe de France à un peu moins de 9 mois de la compétition. Alors, on a devant nous, Flo, des stats, une ribambelle de statistiques, et d'ailleurs merci aux gens qui entretiennent certaines pages Wikipédia. On ne sait pas qui c'est, mais c'est bien noté, c'est bien collecté. On va pouvoir se construire un groupe de 23 ou de 26, parce que donc je le disais, c'est encore une possibilité, un doute sur la compétition. Vous me disiez en préparation de l'émission que la dernière Copa América, c'était 28.
Oui.
28 joueurs, donc là on ne sait pas encore, mais on va essayer de faire 23 et 26 et d'imaginer qui seraient les 3 qui pourraient sauter si ce n'était que 23. On va commencer par les gardiens. Christophe, est-ce que tu vois une raison de changer la hiérarchie actuelle, qui est donc composée d'Hugo Lloris, de Mike Maignan et d'Alphonse Areola, qui sont les 3 portiers que Didier Deschamps sélectionne ces derniers temps?
Alors, en sachant que, c'est pas que je veux pas me projeter, mais que forcément il faut différencier la projection avril 2022, novembre 2022 de la projection genre septembre 2022, juin 2022 qu'on pourrait faire. Enfin, tu vois, sur un même écart, là, il y a quand même une grosse incertitude qui est le mercato estival et forcément des joueurs vont être amenés à changer de club. Donc c'est sûr qu'il y a plus de variables que quand on se projette d'un début à une fin de saison sur une Coupe du Monde qui aurait lieu l'été comme habituellement. Maintenant, en considérant enfin, de toute façon, ça va revenir pour le cas de certains joueurs qui peuvent être amenés à bouger. Là, je pense que concrètement, il y en a deux des trois dont la situation n'évoluera pas. Je pense que Lloris, a priori, restera titulaire à Tottenham et je pense que Maignan, c'est à peu près sûr, restera titulaire à Milan. Je pense sincèrement que Maignan est meilleur que Lloris, mais qu'il n'y a aucune raison de changer pour pas mal de raisons, que ça va être un peu comme Barthez et Coupé à l'époque quand on fait finale en 2006. Donc ces deux-là, a priori, ça me paraît assez solidifié parce que il n'y a pas vraiment de numéro 3 qui pousse en plus, puisque Areola ne joue jamais en club. Pour la question du numéro 3, je suis pas fixé. Après, c'est un peu secondaire dans la mesure où le numéro 3, a priori, ne joue jamais et que tu prends plus un mec qui est sympa et qui est bon à l'entraînement pour arrêter les frappes des titulaires. Enfin, je sais pas si ça a un intérêt majeur. Je suis pas persuadé qu'Areola soit le troisième meilleur gardien français. Maintenant, pour préparer l'avenir, tu prendrais qui? Meslier, Lafond, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je sais pas. Je sais pas
Et
si
Lafond a été appelé là, non?
là.
C'est Lafond qui a fait le groupe là, il me semble.
Alors, en premier lieu, c'était Maignan, Lloris et Areola.
Il l'a pas?
Non.
Je sais pas,
Non.
Ah, il y a juste une préconvocation alors.
Ouais, je pense que c'est ça. Mais par
Ouais,
contre,
c'est ça.
s'il y a une blessure, j'imagine que ce serait lui le sélectionné.
Puis
S'il y
en
en avait une
plus, il est
parmi les trois.
binational, donc il y a toujours ce truc-là qu'il faut garder dans un
Comme
coin de la tête où c'est mieux de l'avoir.
Khalidou Koulibaly, qui a été
Ouais.
découvert un peu tard par le staff français.
Non, mais ouais, binational Burkina Faso, ouais,
Mais donc ça pour
pour avoir
dire
la blessure avant
que
la fin.
avoir le troisième, je suis pas sûr que c'est un intérêt majeur, mais sinon les deux premiers, ça me paraît assez
En fait,
définitif.
j'ai l'impression que c'est la dernière compétition où Lloris a assez d'avance pour ne pas être remise en question. Où on se pose pas la question, on se dit bon bah voilà, c'est celle de Lloris. Il a été champion du monde il y a 4 ans, il a toujours été bon en équipe de France, et par contre 2024, ça risque de pousser côté Maignan et peut-être d'autres profils.
Ouais, après, il faudra voir l'évolution de carrière de Lloris. Il faudra voir aussi comment se passe son tournoi. Parce que comme tu le dis, jusqu'à maintenant, il n'est pas remis en question, parce qu'à chaque fois en équipe de France, il a été décisif, à la hauteur, etc. Tout ce qu'on peut utiliser comme adjectif positif sur ses performances, même si bon, il y a toujours le jeu au pied, etc., etc. Mais oui, c'est tout dépendra sans doute de l'issue de cette compétition, je pense, pour lui.
Bon, je pense qu'on n'a pas d'autres noms à évoquer du côté des gardiens. Il y en a qui partent de beaucoup plus loin, des jeunes. Je sais qu'il y a un gardien très coté du côté de Lille, je crois, Christophe Chevalier, Lucas Chevalier, qui est...
Oui, qui est prêté à Valenciennes et qui, si tu m'as demandé il y a 2 mois, je t'aurais dit il va revenir pour être titulaire l'an prochain. Là, vu que Jardim, qui est sous contrat, est bon, il n'a pas pris un but depuis 6 matchs. Au moment où on enregistre, peut-être que Jardim est parti pour être numéro 1 la saison prochaine, mais c'est vrai qu'en Ligue 1, il n'y a pas de jeunes gardiens. Tu vois, même à l'Arseneur, qui à une époque, on se disait, ah, il est en train de monter, il a perdu sa place cette saison à Brest.
Vous pouvez d'ailleurs l'écouter sur Cop Arena, on l'a eu en entretien, Gauthier Larsonneur. Il parle justement de ce rôle de numéro 2 auquel il a dû s'adapter. Je vous cite les défenseurs que Didier Deschamps a appelés donc depuis septembre 2020. Je crois que Flo a aussi les listes devant les yeux, mais là il est dans un rôle de chroniqueur. Donc défense centrale, il a appelé Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard qui peut jouer les deux rôles, donc je l'inclus dedans. Clément Lenglet, Kurt Zouma, Upamecano, Jules Koundé. Nordi Mukiele qui peut en théorie jouer aussi à ce poste mais qu'il a pris en tant que latéral droit, et William Saliba. On imagine qu'il va en prendre 6 ou 5 au minimum, vu qu'on est parti pour jouer à 3 derrière, donc 6 ou en tout cas des joueurs qui peuvent avoir des rôles hybrides aussi, Flo, ça c'est une possibilité. Des Pavard, des Lucas qui peuvent faire les deux rôles, même Koundé qui a joué côté en tout cas avec Didier Deschamps. Comment vous construisez votre liste, vous ? Parce que d'ailleurs, vous ne jouez pas forcément à 3 derrière, mais vu qu'on est parti là-dessus, je pense qu'on va essayer de rester dans ce moule-là.
On va rester là-dessus, surtout que c'est ce qu'on espérait depuis l'Euro.
Oui, alors pas forcément avec les joueurs qui, au départ, étaient dans le système A3 que Deschamps a utilisé.
Ça s'en rapproche quand même, hein, un petit peu.
Oui, là, ces dernières semaines, mais depuis un an et demi, 2 ans, il y a eu des tâtonnements.
Oui. Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a très peu de surprises à cet endroit-là, quoi. T'en as 4 sur.
Qui t'aimerais voir, toi ? Qui t'aimerais voir, Flo, toi ?
Qui j'aimerais voir ? Mais parmi ceux que t'as cités, en fait, ceux que j'enlève, c'est Lenglet, c'est Zouma, mais il n'y a pas de surprise, quoi. Derrière ceux qui restent, ça fait 6, hein, ceux qui restent. Ça fait Varane, Kimpembe, Hernandez, Pavard, Koundé et Saliba. Ah non, il y a Upamecano.
C'est ça la question. Je pense que la question, elle est entre Saliba et Upamecano d'ici la Coupe du Monde, Christophe.
Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Oui. En fait, je suis en train de réfléchir, savoir s'il n'y a pas d'autres, parce que la France sort 5 centraux de très haut niveau par année.
Il y a Konaté à Liverpool qui est bon.
Moi, clairement.
T'as Fofana aussi de
Leicester
qui vient revenu juste de blessure. Justement, j'étais en train de regarder la liste des espoirs. Et...
Je pense que Kurt Zouma, c'est mort. Hein.
Mais tu vois, alors.
Oui, l'anglais aussi.
Il est parfois amené à. Alors, je pense qu'il part d'un peu loin, mais à surveiller quand même un Loukeba. Badi Achille, pourquoi pas. Tu vois, j'ai envie de te dire, Saliba, il y a 8 mois, est-ce qu'il était plus loin que Badi Achille aujourd'hui ? Pas sûr que. Après, j'imagine pas du tout Badi Achille faire le jump, hein, mais voilà, c'est des gens qui sont déjà en liste espoir où tu te dis, bon, ils sont sur les radars, ils sont suivis de longue date, etc.
Et Badi Achille, je pense que les gauchers sont trop bien installés pour lui, tu vois. Kimpembe Hernandez, ça me paraît très difficile à bouger.
C'est pas totalement faux. Mais voilà, mais par exemple, tu vois, un joueur qui, bon, fait pas une bonne saison, mais qui l'an dernier était hyper bon, que j'adorais, et dont je me suis totalement désolidarisé cette saison, c'est Maxence Lacroix de Wolfsburg. Mais il y a des gens comme ça qui peuvent un peu sortir de nulle part et être très bons. Il y a quelqu'un... En fait, j'ai totalement perdu le fil, du coup. Si, voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un joueur dont personne ne parle, alors qu'il bouge un peu de place, il est amené à jouer parfois latéral. Mais Pierre Kaloulou, j'ai quand même... Alors, encore une fois, est-ce que c'est purement un central ? A priori, oui, mais il est quand même amené à jouer côté. Il est quand même régulièrement titulaire chez le premier championnat d'Italie. Si jamais il s'installe comme titulaire et que Milan, Milan va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, j'ai quand même envie de suivre ce qui peut se passer, parce que là aussi, le bond d'un Saliba, Kaloulou part d'un peu plus haut, à mon sens, sur le standing du club, etc. S'il fait de même, il peut se retrouver dans la sélection. Mais vraiment, pour répondre à ta question, je suis pas ultra fan de Kimpembe, mais t'es un peu obligé de le prendre pour pas mal de raisons. Lui et Varane, ça fait 2, et Lucas Hernandez, ça fait 3, qui a priori sont incontournables. Pavard, maintenant qu'il est central, que c'est acté, ça fait 4. Il reste 2 places. Pour les 2 places, Koundé me semble à peu près sûr, donc ça fait 5.
Et donc... Koundé aura sans doute son gros transfert cet été, qui l'amènera sans doute sous les projecteurs au bon moment. À la rentrée, s'il fait un bon début de saison, quand il arrive dans son nouveau club, il y sera, et il y aura peut-être en plus il ira peut-être chercher en plus un statut supplémentaire peut-être de titulaire, parce que lui ça va se jouer entre lui et Pavard sans doute pour la place d'axe droit quoi.
Sur Varane, je pense que moi je suis un peu dans l'optique Lloris où pour moi c'est la dernière compétition où il sera pas remis en question, mais 2024 quand il aura fait deux saisons et demie en première ligue pas forcément excellente, je pense que le débat va se soulever quand même.
Mais à 29 ans sa dernière compétition,
non c'est pas sa première question, oui. Enfin, vu en plus la hiérarchie, le réservoir de la centraux français qui débarque.
Après, faut signaler, t'as peut-être pas tort, mais t'es quand même, je pense, dans l'hexagone l'une des personnes qui apprécie le moins Varane et depuis très longtemps. Donc non, du coup, c'est vrai que ça vienne de toi, c'est un peu moins étonnant, c'est un peu dans Zidane à toi.
Mais je l'ai trouvé encore en difficulté contre le Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Je trouvais que c'était le central le plus en difficulté des trois.
Après, c'est vrai que c'est plus facile de sortir Varane qui joue la cinquième place avec Manchester et qui est régulièrement blessé, que le Varane qui gagnait la Ligue des Champions 2 années sur 3 avec le Real. Mais il a quand même un statut qui... Bon.
Ouais, mais le statut, ça s'érode avec ce que tu fais en club aussi, tu vois. Et moi, je pense que quand si les deux saisons qu'il fait à Manchester d'ici là sont moyennes, d'ailleurs, cette saison n'est pas grandiose à Manchester, il est blessé assez régulièrement. Je suis pas convaincu. Hein, mais après... Bon,
après, on parlera des milieux, parce que le statut de Pogba à Manchester aussi, et en EDF, ça n'a pas bougé.
Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de profils un peu dans ce cas-là, je trouve. Des mecs dont on peut pas contester la qualité, mais sur les performances, il va falloir se poser la question. Là, j'ai vu que ça comparait beaucoup de Tchouaméni et Pogba ces derniers temps, et ça peut être le cas. Je peux y avoir un cas similaire un peu entre Varane et les nouvelles générations de défenseurs centraux. Je pense que ça peut être. En plus, Varane n'est pas forcément un profil de défense à 3, quoi. Pour moi, il est un peu dans un registre Loïc Badé à Lens. C'est le gars à qui on demande rien avec ballon, et tant mieux quelque part. Et il est en couverture, mais je pense pas que ce soit un joueur vraiment qui te change vraiment la donne, en tout cas dans l'utilisation du ballon.
Après, la question parmi les mecs appelés là, ou qu'on appellerait, c'est qui ta première doublure de Varane? C'est qui le remplace? Qui est-ce qui le remplacerait dans l'axe plutôt que c'est Kiki quand même?
c'est une bonne question aussi. Mais pour moi, Varane n'est pas non plus un profil.
Je pense que c'est Saliba qui lui ressemble.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
À ce niveau-là.
Mais pour moi, Varane n'est pas un profil de central d'une défense à 3 non plus. C'est un.
Oui, enfin, je vois pas ce qu'il apporte. C'est d'accord. En fait. Avec sa vitesse, il fait la couverture tout seul, il a pas besoin d'avoir de mecs autour, et avec ballon, il est pas ultra proactif, on va dire. Mais toujours est-il que je pense qu'il y a 5 joueurs et qu'il en faudra un 6e.
Bon, bah, allons-y, faut qu'on choisisse. Vos 6 centraux ou 5 centraux avec un joueur hybride. On y va.
Bah, du coup, Flo, on est d'accord sur Varane, Kimpembe, Hernandez, Pavard et.
Koundé, oui. Et par défaut j'ajoute Saliba, mais c'est vraiment la forme du moment là, des derniers mois, et tu peux imaginer un scénario où t'as un Upamecano qui fait un énorme début de saison l'année prochaine avec le Bayern et qui revient dans la discussion quoi. Mais c'est vrai que Upamecano a disparu de la discussion en France. Et ça fait longtemps, hein. il a pas joué depuis octobre 2000. Ah non, il a fait un rassemblement en novembre dernier.
Ouais.
Mais sinon, il avait pas fait de match depuis un an. En fait, il revient tous les ans à la rentrée. Donc peut-être qu'il reviendra à la rentrée.
Hein. Mais la Coupe du Monde sera passée. Hein.
Non, mais non.
Ah oui, non, pardon. Attends.
À la rentrée, non, ça sera bon. Il reviendra pile au bon moment.
Ouais, c'est ça.
Donc on verra ce qui va se passer avec le Bayern sur la fin de saison. Et si le Nagelsmann compte sur lui aussi l'année prochaine.
Mais tu vois, dans les variables que j'ai racontées tout à l'heure. Alors forcément on va pas faire un podcast uniquement sur l'hypothèse, mais c'est vrai que Saliba, vraie question, je pense qu'Arsenal aura un peu de difficulté psychologique à le laisser à nouveau après à Marseille, alors qu'il est hyper bon, mais je suis pas sûr qu'il prenne d'entrée la place du duo White-Gabriel, et tu peux potentiellement avoir un truc où on est début novembre et Saliba a joué 2 matchs depuis la rentrée.
Est-ce que Marseille peut pas lâcher 25-30 millions s'ils vont en Ligue des Champions pour récupérer Saliba?
Faut déjà payer Alvaro qui a décalé ses salaires pour le prêt d'Arit. Enfin, il faut payer beaucoup de choses. Je suis pas persuadé que il y a assez de sous. Quand tu vois que Bakambu prend, je crois, 400 000 par mois.
Ouais. Mais après, je pense qu'en tout cas c'est la priorité parmi les joueurs à conserver à l'OM. Je pense que c'est le joueur sur qui il serait le plus prêt à faire un effort. Beaucoup plus que d'autres qui sont encore là pour pas longtemps.
Mais moi, pour le fun, je dis Kaloulou parce que je me dis qu'il peut avoir un profil hybride, même si dépanner en tant que latéral d'une défense à 4, c'est pas exactement pareil que jouer piston.
Il y a un joueur.
Après, le truc, c'est que sur les profils hybrides, en fait, on les a déjà. Hernandez et Pavard sont déjà les profils hybrides dans l'axe, donc t'as pas besoin de profils hybrides en plus.
Ouais.
T'as presque plus besoin de spécialistes. À la place de pour doubler Varane quoi, qui est vraiment le central quoi. Mais
j'entends.
Passons, ça fait déjà beaucoup.
Il y a un joueur qui part de très loin. Il a l'air un peu foufou, mais il fait une bonne saison aussi. Bon, c'est beaucoup trop tôt. Hein. Mais Todibo, d'ici 2-3 ans, je pense que la question se posera aussi. Vu ce qu'il propose à Nice. Alors, il est dans une équipe où le système défensif l'aide aussi. Mais il a des qualités. Après, on verra. C'est beaucoup trop loin pour lui, en tout cas. Pour l'instant, vu d'où il part. Les Pistons. Messieurs, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions en fait sur les Pistons aujourd'hui. Peut-être le Lucas Digne, le plus en balance.
Ouais, quand même,
Et après Klose, à voir s'il va tenir d'ici la Coupe du Monde.
Bah, Théo Digne et Klose Koeman. Il n'y a pas de.
Il y a pas.
Je pense que ça sera ça. Je pense que Deschamps va. Alors Théo Digne de ce côté-là et à droite vu qu'il a Pavard qui a déjà joué latéral. Je me dis qu'il peut se permettre de prendre qu'un seul piston en fait. Mais à droite.
Je réfléchis à quel gaucher pourrait candidater. Et j'en vois pas vraiment. Ou alors c'est vraiment des joueurs qui. Genre Romain Perrault, mais impossible quoi. Mon kick là,
ça part de loin.
6 mois exceptionnels. Quentin Merlin, Adrien Truffert, c'est que des profils.
Après, il y a la question Moukielé qui avait joué 20 minutes avec les Bleus sur les deux dernières années. C'est à la rentrée dernière aussi. Mais bon, je pense que
Moukele Aguilar à droite, on peut oublier dans l'immédiat.
C'est vrai qu'Aguilar a fait l'équipe de France à un moment donné. Attends, si je ne m'abuse.
Ouais. Il a deux sélections.
Ouais.
En tout cas, sur la période depuis 2020.
Si je vous dis over/under une sélection d'ici la fin de la carrière de Ruben Aguilar.
De plus que maintenant, je pense, mais je suis même pas si sûr qu'il reçoive plus de 5 pré-convocations d'ici la fin de sa carrière, Aguilar.
Déjà à Monaco, je suis pas sûr qu'il redevienne titulaire un jour, donc on verra comment ça se passe. Mais avec l'arrivée de Vanderson et les chamboulements constants à Monaco, à voir comment Aguilar va évoluer.
Après Klose, on verra, mais il est rentré. Je pense qu'il est vraiment rentré au bon moment et j'ai l'impression que son match face à l'Afrique du Sud était plutôt intéressant dans ce que j'ai aperçu. J'ai pas non plus regardé le match très attentivement, mais je l'ai vu s'intégrer assez facilement. Enfin, de toute façon, ce qui lui était demandé, c'était globalement la même chose que ce qu'il fait avec Lens. Donc il avait des repères quand même plutôt intéressants et ça ne peut aller qu'en s'améliorant.
Le seul truc qui pourrait le mettre en danger, c'est de partir cet été, mais il n'y aura que 2-3 mois entre son transfert éventuel et la Coupe du Monde. Donc il y aura la marge de...
Après il faut pas oublier qu'il y a des matchs au mois de juin, il y en a 4, donc ça va permettre aussi une large revue d'effectifs.
C'est vrai qu'il y a 4 matchs au mois de juin pour préparer...
Dont le Danemark d'ailleurs.
C'est pas mal ça. Ils vont peut-être changer d'ici là, non? Je sais pas. Ce serait pas. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les sélectionneurs, mais ça me paraît un peu bizarre. Milieu de terrain. Là, je vais vous donner les noms des convoqués aussi. Il y en a moins que derrière. Il y a moins de variété. Il y a des joueurs aussi qui, je pense, ont disparu et ne reviendront plus jamais. Kamavinga, Pogba, Tolisso, Kanté, Nzonzi a été convoqué depuis 2020. Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele, Thomas Lemar, Oussama Aouar, Jordan Veretout, Tchouameni, Guendouzi. Alors là, de toute façon, pour moi, c'est simple. Parce que je pense que Tolisso, c'est fini.
Je pense.
Ouais. D'ici la Coupe du Monde.
Ah oui.
Tolisso, il est en fin de contrat Bayern, il me semble. Il va signer quelque part.
J'entendais fini pour 2022. Hein. Je crois à lui plus tard, mais 2022, ça me paraît short.
Bah moi, Tolisso, t'es pas loin d'être dans sa meilleure période au Bayern là ces dernières semaines. Ah. Moi, j'y crois tout à fait.
On va revenir sur lui, mais du côté fini, je continue. Nzonzi.
Oui, non, oui, Nzonzi.
Moussa Sissoko.
Oui.
Tanguy, c'est que dans ma tête, Sissoko a même pris sa retraite internationale. Alors que non, mais c'est tellement.
Tanguy Ndombele.
Je sais pas.
Ndombele, ça va peut-être, ça peut dépendre de ce qu'il fait en fin d'année, en fin de saison.
Oussama Aouar.
Ouais, après Aouar, là, quand on parle des milieux de terrain, on parle des quatre qui vont se partager les deux postes.
Ah, c'est impossible.
Du 3-4-3. Aouar, c'est pas possible.
Lui, c'est Griezmann. C'est le poste Griezmann s'il veut venir en équipe.
Oui, voilà, ouais. Mais là aussi, c'est pas possible.
Jordan Veretout.
Il est plus titulaire à Rome, donc.
Mais donc, du coup, il n'y a pas tellement d'options parmi les sélectionnés. Je vous les cite, ceux qui me restent crédibles, donc Kamavinga, Pogba, Tolisso, Kanté, Rabiot, ça fait 5, et Tchouameni, Guendouzi, 7.
Non, mais pour moi, il y en a 3, Pogba, Kanté, Tchouameni, déjà, qui se partageront, à mon avis, le temps de jeu, et il y reste une place.
Je vous demande pas qui Deschamps prendra, je vous demande qui vous voulez, hein, parce que je sais que la réponse ne sera pas du tout la même.
Non, mais moi, je suis sur Tolisso.
C'est 4 ou c'est 5 J'ai pas en tête les répartitions.
Ça dépend si on est 23 ou 26, ça dépend. Là,
ouais,
là,
si on est 23, c'est 4, et 26, on peut passer
là,
à 5.
Là, il est parti dans une idée à 5 milieux
centraux. En théorie,
ouais. Parce qu'il a pris Guendouzi en plus des 4 habituels.
De toute façon, sur les trois pour deux places, je pense que toute la France est d'accord, quoi. Pour Tchouaméni, Pogba, Kanté. Je pense qu'on est tous trois d'accord pour dégager Rabiot.
Kamavinga, est-ce qu'il peut pas avec le Real se mettre en avant d'ici la Coupe du Monde?
Si, c'est possible.
Peut. Il peut. Est-ce qu'il va? Je ne sais pas. Mais il peut totalement. Là, je regardais un peu chez les noms appelés,
Si y
enfin,
en
les
a...
mecs de
Ah, les non
désespoir.
sélectionnés, ouais.
Juste comme ça, parmi ceux qui m'intéressent, genre je vais pas citer Joris Chotard, je pense que la question ne se pose pas. Mais Cacré, je le cite, je pense que je suis pas sûr qu'elle se pose, mais voilà. Et à mon avis, elle se posera pas, mais j'aime beaucoup le joueur Michael Olise.
Ouais, pas beaucoup trop tôt.
Beaucoup trop tôt, même si bon, tu te dis que Gallagher a été pris en sélection anglaise, mais il est pour l'instant un ton au-dessus. Mais vraie interrogation, je sens que Guendouzi, qu'est-ce qu'il fera aussi à la rentrée? Mais.
Ouais, bah, lui et Saliba, en fait, il y a double question hein, sur les joueurs de l'OM. Mais je pense qu'il peut être dedans parce que c'est un profil qui peut jouer à deux dans un milieu comme ça qui a beaucoup de volume, contrairement à d'autres.
Moi, à l'instant T, je dirais Tolisso en quatrième et
Ouais.
Guendouzi en plus 1 pour faire 5, en sachant que Ndombele a pour moi plus de potentiel. Mais dans ce
Ouais.
système-là, j'ai Ndombele dans un double pivot, ça ne me va pas en fait.
Derrière des attaquants qui défendent pas énormément non plus, ou pas tous, ça me paraît compliqué.
Moi, je dis Tolisso aussi en 4. Par contre,
Kamavinga
en 5, je suis plus Kamavinga si Kamavinga intègre enfin le milieu du Real l'année prochaine. T'imagines que si ça se trouve, si ce qu'on entend côté transfert, c'est vrai, on peut avoir l'équipe de France peut avoir à la Coupe du Monde la défense à 3 du Bayern Munich et le milieu à 2 du Real Madrid l'année prochaine.
Guendouzi. Parce que c'est vrai que Tchouaméni et le Real. Je sais pas si c'est le secret le moins bien gardé, parce que si ça se trouve, ça se fera pas, mais t'as l'impression que ça fait
Mais
6 mois que
ça a l'air
tout le
chaud.
monde se dit qu'il
Mais
va signer au Real, quoi.
est-ce que du.
Mais
Est-ce que.
t'imagines le truc que tu peux avoir
Ah bah
là?
pour les automatismes, hein.
Est-ce que ça peut pas
Ouais.
embêter Kamavinga justement?
Bah,
Parce
ça
que si
dépend.
Modric résiste autant, tu vois, ça va se jouer entre Tchouaméni
Oui,
et
non mais
Kamavinga pour
d'accord,
l'accompagner.
oui. Il peut lui passer devant. Mais c'est vrai que tu peux te poser la question, ils ont Kamavinga, pourquoi ils vont chercher Tchouaméni? C'est vrai. Mais tu peux imaginer
Après,
aussi un truc avec les deux qui
non mais ils
fonctionnent.
peuvent sauter Kroos et Modric dans les 18 mois, hein, c'est pas impossible. C'est juste sur le court terme là.
Après, t'as juste un des deux à en sauter. Hein. T'as pas besoin de sauter les deux. Hein. Tu peux garder Modric,
Tu peux dégager
les
Casemiro,
deux
quoi.
autres. Ouais.
Déjà, il n'existe plus dans mon esprit. Bah, je mets un Guendouzi slash Kamavinga. Alors, on verra si d'ici la fin de l'épisode, on change d'avis, on arrive à trancher, à se mettre d'accord. Devant. Donc là, pour l'instant, on a 3 gardiens, on a 6 défenseurs centraux, 9. On a 4 pistons, ça fait 13. Et on a 5 milieux, ça fait 18. Donc il nous reste soit 5 attaquants si on est 23, on va partir là-dessus. Soit beaucoup plus si on est 26. Mais si on est 26, c'est plus très intéressant parce qu'il n'y a plus vraiment de choix à faire. Donc je vous demande de choisir 5 attaquants parmi les noms que je vais citer là. Griezmann, Benzema, Giroud, Mbappé, Nabil Fekir a été sélectionné depuis 2020, Wissam Ben Yedder, Marcus Thuram, qu'on a un peu oublié mais qui a été sélectionné. Coman était considéré comme attaquant mais maintenant je pense qu'il est clairement dans les pistons. Anthony Martial, Ousmane Dembélé, Moussa Diaby et Christopher Nkunku. Et là le système flow profite quand même à certains profils.
Oui, bon déjà Griezmann, Mbappé, Benzema, ça y a pas de discussion. Je pense vraiment que Giroud va y rester, ne serait-ce qu'en étant revenu là et en étant plutôt bien revenu puisqu'il marque dans les deux
Ah
matchs,
ben,
il me
moi
semble.
je le mets dedans, il n'y a pas de neuf qui pour moi
C'est ça
concurrence
qui peut
ce
faire ce
neuf.
qu'il
Hein.
fait, etc., etc. Donc,
Puis même les autres neuf français, c'est qui en fait aujourd'hui?
ouais, non, mais. Bah après, il y a la Lacazette qui n'a pas été appelée depuis très très longtemps. Mais non, voilà, là tu en as 4. Et le cinquième, bon, après tout dépend le profil. Moi, le cinquième, je mettrais Nkunku devant Ben Yedder. S'il fallait
Bah,
n'en choisir
surtout
que
qu'on
5.
imagine dans 8 mois aussi. C'est
Dans
ça.
8 mois en plus, ouais. Maintenant, je pense que la logique de groupe prime un petit peu. Et je pense que Ben Yedder est toujours devant aux yeux du sélectionneur.
Mais Ben Yedder jouera jamais en fait, c'est ça le truc.
Ben oui,
Il
ça veut au moins
était
être
dans le
devant.
groupe, Giroud était pas sélectionné, Giroud revient sur un forfait, Giroud démarre les matchs, Ben Yedder en démarre pas, enfin ou beaucoup moins. C'est ça que
Oui,
je.
ben c'est pour ça que je parle de logique de groupe, de cinquième, quoi. Mais voilà, pour moi, Nkunku devrait faire le 5. Et tu vois, donc là, ça nous fait 23. Et s'il faut arriver à
Attends,
26.
c'est ma rubrique suivante, Flo, me spoil
Ok,
pas. Est-ce
bon,
que Christophe est
vas-y.
d'accord sur Nkunku?
1000 fois d'accord, parce que Nkunku a cette double articulation numéro 10, numéro 9,
Ouais.
même si. enfin, quand on dit numéro 10, en gros, mec qui joue entre les lignes, parce que Nkunku a fait tous les postes, hein, il a même fait piston avec Nagelsmann, mais Nkunku peut être doublure de Griezmann, et peut aussi être un deuxième attaquant, et quand il joue devant, il marque plus dans le jeu que Ben Yedder, hein, qui est meilleur buteur du championnat, mais qui a la moitié de ses buts sur penalty, sinon il serait à hauteur de Ellis, je crois. Qui est un peu mon référentiel sur les mecs qui ne marquent que dans le jeu, mais clairement je pense que
surtout qu'il y aura des pénaux.
Ouais. Fekir est hyper bon au Betis,
ouais,
et il peut être hyper intéressant dans ce garder système, des ballons en fin de match.
Il peut jouer dans ce système.
Il peut jouer dans ce système. Après, c'est un truc purement gratuit, hein, mais c'est coup de sang. Je t'avoue que j'adore le joueur, mais au bout d'un moment. Le cinquième carton rouge par année, ça commence franchement à me fatiguer un petit peu.
Il est aussi très bon quand une équipe tourne autour de lui. Et on sait que ce ne sera pas le cas en équipe de France. Donc c'est aussi ça qui, pour moi, joue contre lui. Même si c'est un talent exceptionnel et qu'il est fantastique. Avoir joué d'ailleurs l'Espagne, toutes les semaines, les mecs sont impressionnés de ce qu'il propose.
Ah ouais, c'est son équipe, quoi. Martial, je n'ai jamais été client, ce n'est pas aujourd'hui que je vais le devenir. Surtout qu'il n'est pas hyper bon à Séville. Thuram a disparu de la circulation. Ben Yedder fait le job, et en plus il a même pas, je trouve, un historique avec l'équipe de France où tu te dis bon, il surperforme de manière incroyable. Maintenant, à surveiller sur des listes de 26, je pense, enfin, en tout cas il y a une vraie bataille sur Diaby, Dembélé qui revient bien, après on sait pas du tout ce qui va se passer pour lui. Donc, même sur la fin de saison, et Diaby qui apporte la profondeur et cette capacité aussi à percuter en 1 contre 1. Maintenant le système lui profite pas beaucoup parce que la largeur elle est uniquement sur les pistons.
Après, on sait que Deschamps a l'habitude de changer de système en cours de compétition.
Oui.
C'est souvent le cas. Donc, là, je vous récapitule la liste des 23, et vous aurez droit à 3 wildcards. Quel que soit le poste, quel que soit le profil, vous pourrez les proposer. Donc, on a Maignan, Lloris, Areola, dans les cages. On a en défense centrale Hernandez, Kimpembe, Varane, Saliba, Pavard, Koundé. On a Coman, Klaus, Digne et Théo Hernandez sur les postes de piston. À l'intérieur, Pogba, Kanté, Tchouaméni, Tolisso et Guendouzi ou Kamavinga. Guendouzi pour Christophe, Kamavinga pour Flo. Et devant, on a Griezmann, Mbappé, Benzema, Giroud, Nkunku.
Non, c'est... on a les deux, non ? Guendouzi et Kamavinga.
Non, si t'as les deux, on est 6 au milieu. Donc ce n'est pas, ça nous fait, ça ferait 24 joueurs.
Ah oui, pardon.
C'est Guendouzi ou Kama, selon qui se... De toute façon, alors du coup, ça peut être une de vos wildcards. Si vous avez pris Kamavinga, ça peut être la wildcard Guendouzi et inversement.
Moi, totalement, parce que je pense que Kamavinga est plus talentueux intrinsèquement que Guendouzi, et c'est plus... je vois sur la dynamique et sur l'abattage, mais je prends celui que j'ai pas pris des deux, donc c'est ma première wildcard.
Ok, bon bah, wildcard Kamavinga pour Christophe. Flo, est-ce que t'en as d'autres, Christophe, déjà, à laquelle tu penses, ou Flo, tu veux nous proposer...
J'ai ma deuxième wildcard où je vais mettre Moussa Diaby.
Ok.
Pour un éventuel changement de système, ou une fin de match où tu dois aller marquer, ou t'as besoin d'un mec qui gagne des 1 contre 1.
Ouais, moi c'est aussi... Sur les mecs appelés, en tout cas, c'est Diaby ou Dembélé, ouais.
Est-ce que tu mets Guendouzi du coup dans tes wildcards ou Flo ou pas, vu que c'est celui que tu avais mis de côté?
Pas certain. Non.
Ok, c'est comme tu veux, hein, je vais t'obliger à rien. Est-ce que Dembélé fait partie de vos wildcards, pardon?
Du coup non, oui, mais
Christophe penche pour Diaby.
Mais okay. Si l'échantillon était plus large de ses performances actuelles, oui. Là, j'ai pas envie de. Ça me paraît un peu tôt pour remettre Dembélé après un mois dans un Barça qui tourne bien.
Alors, je vais vous proposer des joueurs comme ça à la volée, vous allez me dire rapidement. Savanier.
Non.
Dimitri Payet.
Non.
Amin Gouiri.
Je me suis posé la question, mais non.
Flo non plus.
Ça me paraît tôt. Mais c'est pareil, Gouiri, si ça se trouve, il fait un gros transfert cet été et ça va totalement chambouler les discussions et les possibilités. Donc,
Sofiane Diop.
Non.
Tanguy Ndombele.
Non, de toute façon, par rapport au groupe que t'as là,
Lukeba.
Un des deux milieux, c'est une wildcard. Non, mais derrière, t'ajoutes pas de mec.
Ok, pardon, chef.
Non, mais je veux dire que les trois
oui, ajoutés,
c'est des mecs devant, c'est pas des.
Je suis d'accord.
Derrière, t'as doublé tous les postes, t'as du monde. Si t'as vraiment un groupe de 26, tu prends trois profils offensifs supplémentaires, de mon point de vue. Enfin, non, tu prends un milieu. Donc Guendouzi, Kamavinga, la machin, et deux profils supplémentaires devant, un profil ailier, peut-être en effet un attaquant. C'est là que t'as Diaby et Ben Yedder d'aujourd'hui qui rentrent dans la discussion. Et c'est vrai que ça peut être Dembélé
ou
Guiri.
Ou Fekir, même dans les wildcards, on en parlait. Ça peut être une possibilité, du coup.
Sachant qu'il ne sera pas dedans, comme Kaloulou que j'avais mentionné, mais que tu as squeezé. Genre, la question ne s'est plus posée, alors que je l'ai mis dans ma potentielle liste en étant le dernier central. Donc, lui, il ne sera pas là non plus. Il y a même une des chances infinitésimales. J'ai à peu près bien prononcé le mot. Mais Rüther d'Offenheim, qui a été appelé en espoir là, à chaque fois que je le vois jouer avec Offenheim, mais c'est assez souvent, est vraiment hyper bon. Donc, je ne suis pas sûr. Enfin, la trajectoire à la Thuram peut exister. Après, ça ne sera pas le cas, je pense. Mais je le garde dans un coin de ma tête. Mais sinon, il faudrait... Limite, je vais mettre Ben Yedder par défaut si tu veux vraiment un deuxième pur neuf, quoi.
J'en ai un qui peut foutre le bordel.
Martin Terrier.
Non, j'en ai un qui peut foutre le bordel sur 3 mois. Non pas grâce à un transfert, mais parce que son club va changer d'envergure cet été.
Newcastle, Alan Saint-Maximin. Alan Saint-Maximin.
Non, Saint-Maximin.
Ah, oui.
S'il garde sa place dans un Newcastle boosté par les recrues qu'il risque de faire cet été. Je me dis que lui peut être vraiment le gars de dernière minute qui vient compléter la liste et qui du coup sortirait peut-être un Diaby ou un Dembélé qui serait revenu dans la course, quoi. Mais lui c'est peut-être le gars qui arrivera au dernier moment pour le coup. Il a un bon profil pour, en tout cas vu l'évolution de son club et vu ce qu'il attend à la rentrée, si évidemment il garde sa place et c'est pas une victime du changement de statut de Newcastle.
Bon, j'étais en train de regarder les joueurs français, les minotés auxquels on n'a pas pensé, mais c'est un peu fourre-tout, hein, parce qu'on passe de Fabien Santonze à Randal Kolo Muani, à Simon Banza, à Malang Sarr, à Anthony Mandrea, qui a fait un bon match à Angers, du coup, qui est dans les premiers joueurs, les minotés français. Et Gaëtan Laborde aussi, dont on n'a pas parlé, mais qui fait une bonne saison, mais il y a déjà des profils similaires. Donc on va s'arrêter là. Vous avez notre liste de 23, il y a quelques possibilités extérieures si ça monte à 26. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément énormément de surprises. Et bon, d'ici la Coupe du Monde, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un Mohamed Ali Chou, par exemple, qui va être énorme si la Coupe du Monde, et il va devoir rentrer.
Et juste un truc, il y a un joueur qui ressortait très bien dans les stades de création dans l'article qu'a fait Ismaël pour Coparena il y a quelques jours, où il analysait les milieux, les attaquants français par le biais des stats. Et bon, alors pour certains, il n'y avait pas de surprise, justement, Saint-Max ressortait très bien sur les dribbles, etc. Mais en termes de créativité parmi les attaquants, les actions menant à. Non, c'est pas les actions menant à un tir, je ne sais plus laquelle c'était.
Tu vas citer Benjamin Bourigeaud.
Alors Benjamin Bourigeaud ressortait pas mal, mais il est pas mal aidé par les coups de pied arrêtés.
Ouais, c'est le mec qui fait, je crois, le plus de passes-clés en Europe sur les coups de pied arrêtés ou pas loin.
Il en a une soixantaine, le deuxième est à 40, un truc comme ça. Enfin,
mais les deux qui ressortaient le plus, c'est-à-dire qui ressortaient le plus haut sur les actions amenant à un tir et les expected assists par 90, au-delà de Bourigeaud, sur les expected assists par 90, le premier c'était Payet. Bourigeaud était deuxième, mais très aidé par les coups de pied arrêtés. Et le troisième, c'était Alassane Pléa. De Gladbach. Voilà. Alors je sais pas comment, Christophe. J'ai très peu vu Gladbach. Mais voilà, il ressort très bien. Il est devant Nkunku, Benzema et Mbappé.
Je pense que le top 5-6. Le train est passé pour Pléa et je pense que malheureusement.
Oui. Mais il y a une Bundesliga taxe un peu avec Gladbach, hein, qui un coup on met 6, un coup on prend 7. Enfin, pour moi, Pléa a un petit côté, tu sais, faudrait ajuster comme en NBA quand ils ajustent au nombre de possessions. Parce que du coup, l'équipe qui va toujours au bout des 24 secondes ou celle qui fait du run and gun, qui shoot au bout de 8 secondes, forcément, tu peux faire plus de stats. Et vraiment, Gladbach, il y a un côté où ça run and gun. Et Pléa m'a pas spécialement sauté aux yeux sur l'aspect création par rapport aux autres années. Quoi.
Je le citais.
Ouais, non, mais t'as de raison. Je me souviens d'avoir aussi tilté en lisant l'article. Mais en plus, Gladbach est pas bien classé. Donc, mine de rien, il y a quand même ce côté... Gladbach ne jouera pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, et donc du coup, d'ailleurs lui je pense sera amené à partir, hein. Je sais qu'en tant que natif de Lille, il est quand même assez intéressé par une venue à Lille, mais qui je pense n'a pas les moyens, il serait pas non plus contre un retour à Lille.
Et ben, écoute, on
de donner un secret qui n'en est pas un, je pense.
On verra cet été si Alassane Pléa fait son retour en France. On va quitter d'ailleurs notre beau pays pour parler des matchs de barrage, en commençant par le reste de la zone Europe avec le drame italien, Christophe, match que tu as vu contre la Macédoine, match que l'Italie a largement dominé en termes de possession et de territoire, puisqu'ils ont pris quand même le contrôle du jeu et des espaces, mais qui ont enchaîné des toutes petites occasions. Je crois qu'ils ont une trentaine de tirs, mais qu'ils n'atteignent même pas les deux expected goals, donc ça montre un peu la faible qualité de chaque occasion. Est-ce que cette non-qualification est une logique, ou juste un match très malheureux, comme ils avaient d'ailleurs connu avant la... avant la fin de la phase de poule de qualification là, et un coup en moins du coup pour la Coupe du Monde qui perd une belle équipe. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah justement, c'est moi qui ai un peu poussé pour qu'on
Oui.
intègre ça au conducteur, parce que j'avais aussi envie de vous entendre sur le sujet. La première chose, l'échelle du match, c'est un hold-up complet, mais comme ça peut arriver dans le foot, et mine de rien, il y a des hold-up plus scandaleux, pas sur le côté, on marque à partir de rien, parce qu'effectivement, la Macédoine fait deux tirs, et le but, c'est à la dernière seconde, c'est dégagement du gardien, déviation, et frappe de 25 mètres en un temps. Donc ce but sort de nulle part. Par contre, des équipes qui font, je crois que c'est 32 tirs ou 34, parmi toutes les équipes qui font plus de 30 tirs, en tout cas, il y en a qui se créent beaucoup plus de grosses occasions que l'Italie. C'est-à-dire que l'Italie n'était pas non plus en position de mener 5-0. Elle n'aurait pas forcément dû prendre ce but, mais là, vu le scénario, en gros, elle doit peut-être mener 1-0 parce que moi, Berardi fait une passe au gardien alors que le gardien rate sa relance et qu'il n'y a plus personne dans le but, et qu'au lieu de tirer, il fait une espèce de plat du pied nullissime. Mais sinon, l'aspect offensif, créatif, était quand même très décevant. Alors après, la vraie interrogation que j'ai, c'est pourquoi l'Italie se retrouve là, parce que vraiment ce match-là est aberrant, mais au final, si tu passes ça, est-ce que tu bats le Portugal? Je suis pas persuadé. Ce qui pose problème en fait, c'est que l'Italie ne soit pas qualifiée dans les groupes, notamment parce que Jorginho rate un penalty à la 90e face à la Suisse. Que un peu plus tôt, je me souviens d'avoir parlé dans ce même podcast, parce que j'étais devant le match et je me disais, bon, finalement, terrible, faut pas que les gens ressortent cette archive parce que j'aurais l'air d'un débile, mais un match un partout face à la Bulgarie où je dis, bon, ils sont tellement malchanceux que dans tous les cas, on sait qu'ils vont se qualifier, c'est juste que voilà, il y a certains matchs que tu domines et que tu gagnes pas, et là, vraiment, l'Italie avait écrabouillé la Bulgarie, elle n'avait pas réussi à gagner. Enfin bon, il y a une phase de poule qui est quand même très improbable, honnêtement. Alors là, t'as un match de barrage en plus qui te donnait une chance supplémentaire, sachant que Jorginho rate aussi un penalty à l'aller face à la Suisse, donc concrètement l'Italie peut gagner ces deux matchs-là. Mais il y a un côté très France, Kostadinov, machin, où ok, il y a Kostadinov, mais avant tu bats pas Israël. Et il y a un peu ça, mais sur une échelle beaucoup plus grande, où tu dois deux fois battre la Suisse, tu dois battre la Bulgarie, enfin limite tu dois gagner tous tes matchs de poule, et la question des barrages se pose pas, donc c'est vraiment l'accumulation. Mais c'est vrai que je m'interroge sur cette accumulation, parce qu'au bout d'un moment tu te rates une fois, ok.
Moi je trouve que ça traduit quand même le niveau moyen de leurs attaquants, qu'on avait déjà vu à l'Euro.
Bah voilà, bah c'est là-dessus
avec
que je voulais
commencer. Avec en plus un Insigne qui a l'impression à démissionner du football, le football européen en tout cas.
Bah d'ailleurs,
Berardi qui a joué comme un idiot les derniers matchs, et Immobile qui est toujours très très mal à l'aise dans ce projet de jeu-là. Et je trouve qu'il n'y a pas de relève en fait. Donc, ou alors la relève était en tribune sur les matchs.
Raspadori joue, mais Scamacca était blessé. Mais est-ce que. Enfin, c'est la relève après, est-ce que c'est de la relève qui te.
Ah oui, c'est la question aussi, oui, oui. Non, je pense pas. Mais je trouve que ça fait longtemps que, quand tu penses que les années 90-2000, ils avaient Del Piero, Baggio, Totti, Cassano, et j'en oublie encore des super joueurs italiens devant Vieri. Enfin, je sais pas, il y avait des générations incroyables sur le plan offensif. Ils avaient des furies classées tous les 2-3 ans, et là, il y en a plus en fait. Enfin, ils sont au milieu de terrain, ils sont derrière, mais je trouve qu'il y a aucun top joueur sur le plan offensif italien, et je sais même pas s'il y en a d'autres, certains qui sortent en Serie A ces derniers temps. Alors, il y avait Zaniolo, mais j'ai l'impression qu'il se blesse tous les 6 mois.
Bah, il a eu deux énormes blessures, quoi.
Il a perdu deux fois les croisés, non?
Bah, il s'est fait croiser de chaque genou, je crois.
Ah, écoute, je ne lui jetterai pas la première pierre. Mais sinon, il y a peu de talents vraiment exceptionnels sur le plan offensif, je trouve.
Et les espoirs sont catastrophiques. Hein. Enfin, au-delà des résultats, tu regardes la liste des espoirs par rapport à la liste des espoirs français. Tu rigoles, il y a un vrai débat en Italie sur est-ce qu'on ne fait pas jouer trop d'étrangers, etc. Parce que là, je crois qu'il y avait même. Alors, je sais plus si le mec est là ou pas, mais c'est un observateur du championnat italien, je sais plus lequel c'est, mais un ancien joueur, qui a dit que ça parlait de joueurs de série C avec les espoirs. Alors, j'ai pas vérifié si c'était vrai ou s'il a dit il y a des joueurs de série B, on va bientôt en être à appeler des joueurs de série C, mais toujours est-il que c'est ça qui compose actuellement.
C'est vrai qu'il y avait un vrai débat de fond là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il a à chaque fois été effacé par des mecs qui disaient juste ouais, mais il y a quand même trop d'étrangers en série A, genre il y a trop d'Africains, quoi. Il y avait des mecs qui avaient dit ça à un moment. Et du coup, ça t'empêchait de réfléchir vraiment aux joueurs formés. Mais il y avait plusieurs mecs de la fédération qui avaient sorti des déclats comme ça et qui avaient empêché de travailler vraiment sur le fond. Mais bon, en tout cas, je sais pas, c'est quoi le dernier grand joueur que l'Italie a formé? Verratti?
Après, ça dépend grand et grand, tu vois. C'est-à-dire que Barella, qui a 25 ans, est-ce que c'est un très grand joueur? Est-ce que c'est un grand joueur?
Le dernier grand attaquant.
Par contre, sur les offensifs, c'est plus compliqué.
Si Flo a une idée, je sais pas. On cherche, mais le dernier grand attaquant italien formé. Je sais qu'on avait adoré un match de Pellegrini contre Bordeaux. Je sais pas si tu t'en rappelles.
Bah, lui, il est perdu. Ouais, bah, Pellegrini. En fait, ils ont eu plusieurs gars sortis très jeunes où tu te dis, ah, bah, peut-être lui. Donc, il y a eu Pellegrini qui est parti très tôt et qui. Je
après,
sais même pas où il est maintenant.
Après,
je sais
il y a
pas
si Chiesa.
Il est pas retourné à Milan? Ah, il y a Chiesa, c'est vrai.
Il y a Chiesa, oui, mais Chiesa, il joue pas ou peu.
Bah, j'adore le joueur, mais pour moi, c'est. J'adore le joueur, mais pour moi, c'est pas un méga talent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un super joueur qui a une qualité, une attitude énorme.
Après, t'as. Non, mais tu vois, t'avais Moïse Kean qui était censé arriver et un peu tout casser. Bon, qui s'est perdu avec son Covid long aussi, je crois.
C'est pareil,
Là, c'est
c'est
très
un bon
compliqué.
joueur pour moi, mais c'est pas.
En tout cas, je suis d'accord avec toi, Raphaël, ou Chiesa. Je pense qu'il est meilleur que les autres juste parce que c'est le seul mec qui court dans une équipe où ça demande la balle dans les pieds.
Oui, parce qu'il
Ou
est
alors
tout le temps à
immobilier,
100% en
il
plus.
peut pas
Il est tout le
courir.
temps, mais je dis à 100%, il est tout le temps à 200 en fait, Chiesa, donc ça se remarque vite.
Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il maximise vraiment son talent. C'est un bon joueur, hein, mais je suis pas sûr qu'il soit beaucoup. Enfin, il est très loin d'être aussi doué que Cassano, par exemple.
Et il y avait, ah oui, il y avait Orsolini que j'aimais bien un moment, mais j'ai l'impression qu'il a disparu aussi. Je sais même pas ce qui devient.
Qui mettait toujours le même but à
Ouais, bah
Robert.
ouais, mais pourquoi pas, tu vois, mais je sais pas, je suis un peu déçu de la formation italienne pour le coup. Je pense qu'ils vont y réfléchir d'ici quelques temps.
Mais la question que je me posais, c'est que je pose vite fait à Flo, je te prends un peu le micro, Raphaël, mais c'est est-ce que
Vas-y.
ça, pas que ça remet en question un titre à l'Euro, parce qu'au final le titre il est gagné et puis peu importe, mais est-ce que ça éclaire sous un nouveau jour un petit peu leur parcours qui était, c'est pas le seul, hein, je veux dire, le Portugal en 2016 aussi, mais un peu laborieux où tu passes au tir au but, tu passes après
Après,
prolongation, etc.
ça jouait plus quand même, hein. C'est
Non mais
ça
c'est
qui
ça,
était
non mais
bien.
vraie question en fait, est-ce que ça change quoi que ce soit dans la lecture que vous avez maintenant et que vous aurez dans quelques années du titre italien, où je me demande si en fait dans 5 ou 10 ans, les gens au lieu de se dire comme sur le moment, ah ouais quand même vraie belle équipe, vont pas se dire ouais bon c'est un peu une
Après,
anomalie quoi.
en fait, le truc, c'est que c'était quand même une équipe fonctionnelle, mais dont on connaissait l'immense défaut. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien dans cette équipe, pour presser, je vais y
Pour
arriver,
sortir le ballon.
pour sortir les ballons, pardon, merci Raphaël. Mais c'est vrai qu'il y avait de gros soucis dans les 30 derniers mètres dans cette équipe.
Et pour moi, Flo, c'est plus une équipe qui avait une date de péremption qu'une date de naissance, tu vois, sur cette compétition. Parce que tu avais quand même beaucoup de joueurs où tu savais qu'ils étaient soit à leur pic, soit déjà qu'ils avaient passé leur pic. Et notamment derrière, tu vois, tu parlais de la sortie de balle. Quand tu n'auras plus Bonucci, Chiellini, alors tu auras peut-être Bastoni, mais tu auras qui d'autre? Et pareil pour Spinazzola qui était déjà âgé. Verratti, il a 30 ans, il a bientôt 30 ans. Jorginho, c'est à peu près la même génération, je crois.
Ouais, Jorginho à 30, ouais.
Immobile, c'est plus vieux. En fait, les plus jeunes, c'était Berardi, Chiesa, et t'avais Locatelli qui d'ailleurs était même pas dans l'équipe récemment de Mancini. Donc
T'avais. Et devant, t'as Immobile, Belotti.
ouais,
Ouais, il y a Pessina qui pouvait rentrer sur
voilà.
des postes un peu offensifs. Et ouais, Barella qui était. Je sens que Barella, quand même 25 ans, enfin, je sais pas la vision que les gens en ont, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de faux jeune malgré tout, où tu dis, ah, il est en train d'arriver et tout. Mine de rien, 25 ans, il te reste une grande compétition, maximum 2, quoi.
Dommage que sa saison ait été gâchée par des blessures. Peut-être qu'avec une saison complète, l'Italie aurait été qualifiée d'ailleurs. Tu vois, je me posais cette question-là aussi. Est-ce que vraiment ce succès mène à plus ou pas? Bon, ben, on a eu un peu la réponse. Même si ça, il y a eu des événements contraires. Hein, il y avait Di Lorenzo qui était pas mal sur la compète parmi les plus jeunes.
Après, bon,
Ah oui, je dis
personne n'a
ça, mais il
jamais
a
dit vrai
28.
sur Di Lorenzo.
Je dis ça, mais il a 28 ans en plus. C'est pareil, c'est un peu un faux jeune, tu vois. Parce que le mec débarque tard en fait. Et Donnarumma. C'est Donnarumma en fait le plus jeune de l'effectif, quasiment.
Donnarumma, depuis le Real, faudra voir. Il va finir par s'en remettre, hein, mais ouf, le moral n'est plus là, là, c'est terrible. Les mains non plus ne sont plus là, il n'y a plus.
Après, pour faire la transition, je suis vraiment pas sûr qu'ils auraient battu le Portugal. J'ai vu les deux matchs du Portugal, alors c'était pas grandiose, c'était pas fantastique, mais ils avaient un milieu Moutinho, Bruno, Bernardo qui était vraiment sympathique, avec un Otavio. Que Flo t'avais bien aimé aussi contre Lyon, qui a été à nouveau bon. Il a été naturalisé il y a un an et il est très bien avec le Portugal dans un rôle de milieu au départ côté, mais qui vient un peu intérieur quand Bernardo et Bruno se baladent parce qu'ils ont vraiment liberté totale de se balader. Devant, t'as Jota et Ronaldo qui jouent un peu plus haut, qui attaquent la profondeur, qui peuvent aussi combiner, même si c'est un peu plus dur parce que les deux je les trouve pas très intelligents de haut jeu et pas très justes
Ils ont
techniquement.
Vitinha qui va arriver bientôt aussi, qui devrait pas
Ouais,
tarder, qui sera là, je pense, pour la Coupe du
ils ont
Monde.
Ruben Dias qui va revenir de blessure, parce que là c'était quand même Danilo et Pep derrière. Ça avait de la taille, et pas forcément beaucoup de vitesse. Mais il y avait des bonnes sorties de balle quand même, parce que Pep a le jeu long et Danilo est capable de porter un peu le ballon. Et puis ils ont quand même des super latéraux. Parce que là, tu avais quand même des matchs où il y avait Nuno Mendes et Cancelo. Et là, pour le coup, pour sortir le ballon, pour attaquer sur les côtés, c'est vraiment bien, sachant qu'à gauche, ils ont aussi Guerrero, et qu'à droite, l'autre qui a joué, c'est Diogo Dalot. Donc, qui est moins complet que Cancelo, moins fort techniquement, mais qui peut prendre son couloir avec de la vitesse. Donc, il y a deux variables pour cette équipe du Portugal. La première, on la connaît très bien, c'est Renato Sanchez. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner 4 matchs de suite? Est-ce qu'il sera titulaire? Et la deuxième, c'est João Félix. Et ça, même question, Christophe, pour João Félix, pas sur les blessures, mais est-ce qu'il va s'installer en club un jour pour pouvoir prétendre à une place de titulaire? Parce que là, alors il est passé par Otavio, pourquoi pas, mais c'est quand même, enfin, vu le quand est-ce qu'il a débarqué et le timing, ça devrait être sa première grande Coupe du Monde à João Félix, et je pense qu'il va la démarrer sur le banc à Trille.
Après, il est encore dans la discussion, dans la rotation. Il a même joué les derniers grands matchs de l'Atlético, notamment en Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment un yo-yo un peu permanent. C'est un peu comme certains, et c'est pas trop le cas d'habitude à l'Atlético, c'est un peu comme certains joueurs de City, quoi, où Bernardo, tu le perds un an et puis il revient.
Sterling.
Ou Sterling, que tu as perdu un an et qui revient aussi. Sur les profils offensifs, il y a des mecs comme ça. Même Jesus a eu des moments où tu te demandais un peu s'il avait progressé depuis qu'il était arrivé en Angleterre. Félix, c'est plutôt sur 3-4 mois, mais c'est un peu les montagnes russes permanentes. Mais c'est vrai que, après, le Portugal et son coach ont gagné une compétition en ayant des joueurs fonctionnels qui prenaient la place de joueurs talentueux. Donc, même si les joueurs talentueux n'étaient pas non plus du niveau de Félix, hein, mais ils ont quand même un petit peu la carte pour aller jusqu'au succès avec des travailleurs, on va dire.
Ouais, mais après, là, ils avaient un jeu intéressant avec beaucoup de déplacements à l'intérieur, un milieu mouvant. J'ai écrit un article pour l'équipe là-dessus. Après, je suis pas sûr qu'il y aura le même milieu quand ce sera la Coupe du Monde. On en parlera un peu avec les poules derrière. En tout cas, il y a de la qualité. Il manque peut-être un central à cette équipe pour accompagner ou suppléer Diaz et Pep. C'était plutôt sympa de les voir. On va passer à une zone que Flo connaît très bien et que Christophe a visionné pendant cette fenêtre internationale, c'est la zone Afrique, qui était d'ailleurs, je pense, la plus passionnante, parce qu'il y avait beaucoup de matchs et des équipes de niveau très similaire. Alors, on va faire une espèce de récap. L'Algérie a été sortie par le Cameroun, sur un but de Karl Toko Ekambi, qui fait beaucoup de mal aux supporters lyonnais et algériens. On en a quelques-uns qu'on connaît, on leur passe le bonjour, on pense à Yanis, qui est très très malheureux en ce moment par rapport à ça.
Compliqué.
Il fait vivre une saison difficile. Le Ghana a sorti le Nigeria. Nigeria qui était plutôt sympa à la Coupe d'Afrique, mais qui s'était fait sortir aussi. Alors la Côte d'Ivoire avait déjà été sortie avant ça. Qui en a d'autres comme qualifié? Le Maroc a sorti le Congo, la Tunisie a sorti le Mali. Et le cinquième qualifié, c'est le Sénégal qui a battu l'Égypte. Donc voilà
Au tir au béton.
nos cinq qualifiés. Sénégal-Égypte, on peut dire que le football a gagné quand même, comme à la Coupe d'Afrique des Nations.
Pas pendant 90 minutes, enfin pas pendant 120 minutes, mais oui, à l'issue du match, ouais, il a gagné, ouais, on va dire.
Pardon,
Oui,
oui,
c'est
voilà,
ça.
c'est ça, oui. Le résultat.
Il y a le bon vainqueur à la fin, mais tu vois, souvent on dit l'important c'est le chemin, pas la destination. Là, c'est à l'inverse,
Voilà,
quoi. C'est-à-dire que t'es arrivé à bon port, mais putain, la route elle était compliquée, quoi. C'était
ouais.
vaguement du foot, hein.
Alors, quel est
Après,
le.
c'est un petit peu le lien sur tous ces matchs-là, à part le Maroc qui a survolé son match retour face au Congo. Enfin, face à la RDC pour préciser quel Congo, mais ouais, non, pour avoir vu du coup sur les matchs retour, j'ai vu des bouts de Tunisie-Mali et j'étais sur Sénégal-Égypte en
Ah,
entier, puis après j'ai switché sur
ouais, Cameroun.
Algérie-Cameroun, et ce qui frappe dans ces matchs, c'est je crois que c'est Rigobert Song qui en conf de presse avant le match avait dit de toute façon ça va pas jouer sur la tactique, hein, ça va se jouer sur autre chose. Et globalement oui, bah c'est ça, quand tu vois les matchs, quand tu vois l'engagement, le nombre de fautes sur Sénégal-Égypte, j'ai plus le chiffre en tête, mais Ghana-Nigeria,
Certaines
c'était
pelouses aussi. Il y avait encore des pelouses assez difficiles.
Nigeria-Ghana, c'était une folie aussi sur le nombre de fautes. Les Ghanéens, ils ont fait que casser le rythme, en fait, eux qui avaient leur petit but
Grâce au but à
de défendre, il me semble.
l'extérieur, qu'on salue.
Voilà, grâce au but à l'extérieur. Mais ouais, non, c'était très 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 compliqué. Et oui, tu vois très peu de foot sur ces matchs-là. Et le but que prend l'Algérie en fin de match, tu sens que tout se joue dans les têtes, en fait, sur ces
Dans
matchs-là.
la tête d'un défenseur, surtout.
Ouais,
Alors, plusieurs, il y
tu
a
peux quand même
plusieurs erreurs quand
sortir
même.
sur le
Non, non, mais oui,
centreur,
non,
tu
il y a l'erreur
peux.
sur la touche, je suis d'accord, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un défenseur courir de 5 mètres à un centre, quand même.
Et même avant sur l'action, avant même d'arriver à la touche, il y a un coup de pied arrêté pour le Maroc au milieu de terrain.
Pour l'Algérie, tu veux dire.
Trois Algériens qui se jettent, qui font des tacles absolument démeutiers pour couper l'action.
Ouais, t'as vraiment ce truc, mais c'est fou, c'est l'influence du score, machin. Ça, l'Algérie n'est absolument jamais en danger, et elle se met en danger tout seul. Putain, l'adversaire à la balle, il est à 40 mètres de notre but, faut faire faute. Tu dis, mais ça fait une heure et demie qu'ils sont mais à 40 mètres de notre but sans être dangereux, pourquoi est-ce que là, c'est trop dangereux?
Sur la touche, il y a quand même un Algérien qui défend le mec qui fait la touche au lieu de défendre le mec qui peut centrer. Et ça, c'est un moment assez dramatique. Après, bon, à leur place, on n'aurait pas fait mieux. Hein. C'est très difficile à gérer ces matchs-là. On l'a très bien vu avec des grandes équipes. On se rappelle.
Non, mais tout se joue sur.
Mais c'est incroyable.
Tout se joue. Enfin, on a beaucoup parlé de l'aspect émotionnel, notamment quand on parlait de PSG Real. Mais là, en plus, c'est exacerbé par le stade, l'ambiance.
Ouais. L'enjeu.
L'enjeu, etc. Sur un accès à une Coupe du Monde, il faut voir qu'en Europe, une grande nation européenne, pour aller à la Coupe du Monde, tu joues pas grand-chose. Enfin, bon, on vient de parler de 15 minutes de l'Italie, mais normalement, t'as rien à... Non, tu sais que c'est quasiment une formalité.
Quand il y est pas, c'est un vrai accident, alors que là, c'est différent.
En Afrique, être dans les 5 qui restent, c'est un vrai parcours du combattant et ça représente beaucoup plus de choses de sortir de ces barrages-là que de sortir d'une campagne éliminatoire en Europe. Quoi.
Pour te raconter une anecdote perso, donc l'autre jour on sort de séance d'entraînement et j'ai des petits qui viennent un peu qui ont des origines de partout, tu vois. Et puis il y a un papa qui vient nous voir à la fin avec mon collègue qui me dit messieurs, j'ai un contrat pour vous. Moi j'étais un peu inquiet.
C'est Thierry Henry qui t'a parlé?
Non mais dit comme ça on dirait qu'il a un contrat sur ta tête en fait. Donc je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à son enfant? Et en fait il nous a dit le Congo c'est plus possible. Il faut changer le staff. Et en fait c'est le papa d'un petit qui est d'origine congolaise. Et le père du coup ça fait 48 ans que le Congo n'avait pas été qualifié. La dernière fois qu'ils ont été qualifiés il s'appelait Zaïre.
Ils n'ont pas fait de CAN en plus là. Ils n'étaient pas à la CAN en janvier.
Et moi j'en ai deux dans le groupe des petits. Alors du coup bon, évidemment ils ont été chambrés par tout le monde y compris moi-même. Mais quand le père m'a dit ça m'a fait un peu de peine quoi. Il me dit c'est plus possible, on est nul. Et il m'a dit ça après le match aller. Donc un peu lucide quand même, parce que match aller, ils font quand même un partout.
Oui, et il passe, je crois qu'il rentre bien dans le match, il passe pas loin d'en mettre un deuxième, et finalement le Maroc revient et s'en tire avec la bonne opération. Après au retour, il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu de match, j'ai l'impression. Mais là, tu vois, depuis le match, par contre, en RDC, ça a totalement explosé. Il y a les leaks. De vocaux de Bakambu qui parlent de Cooper, qui parlent de certains choix de préparation du match, etc. Enfin bref, voilà, ça part un peu dans tous les sens depuis l'élimination là-bas.
Bon, on a évoqué vite fait Algérie-Cameroun, où là par exemple, je ne sais pas si le foot a gagné, je suis pas sûr, je sais pas si le foot a gagné sur ce match-là, même si l'Algérie n'est pas grandiose depuis quelques mois. Le Cameroun, je ne sais pas ce qu'ils vont proposer à la Coupe du Monde, mais j'espère qu'ils feront mieux qu'en 2014.
Oui, ça avait été un vrai fiasco 2014.
Je pense que 2014, ils étaient vraiment à la bagarre avec la Corée du Sud sur la pire équipe de la compétition.
Ouais, bah les chiffres étaient là. De toute façon, je crois qu'ils font zéro pointé, il me semble.
Ouais.
Sur celle-là.
Et ils font Alexandre Song dans ton dos. C'est ça qui nous a donné cette grande chanson.
Ouais, maintenant, il y a Rigobert Song sur ton banc. On verra ce que ça donne.
Après, il y a le Maroc, c'était pas mal, mais il y a toujours la variable, la question Vaïd.
Oui, qui se refasse pas sauter. Parce que c'est vrai que ça. Après la CAN, ça a un petit peu bougé. Je me dis qu'il a peut-être gagné quelques mois encore, mais il ne faudrait pas qu'il rate les matchs de juin, quoi. Même s'ils n'ont pas grand-chose à jouer, c'est des amicaux, mais il y a des choses qui peuvent encore se passer. Mais j'espère vraiment pour lui et pour ce qu'il a monté, même si la CAN s'est mal terminée, qu'il va pouvoir au moins les amener jusqu'au tournoi. Ou en plus, ils ont un groupe intéressant, mais on peut passer au groupe d'ailleurs.
Je finis le petit point africain, parce que Ilodzic a qualifié 3 pays pour une Coupe du Monde, il a fait qu'une seule Coupe du Monde. C'est quand même dommage. Ouais. Ça fait pas un très bon ratio. La Tunisie, est-ce qu'on a un truc à dire sur Tunisie-Mali, Flo, ou sur cette équipe en général, ou sur le Mali qui a quand même une génération pas mal, mais qui n'y sera pas. Ça aurait été un événement aussi.
Je l'ai très peu vu celui-là. Ce match-là, je veux dire. Ce qui est terrible, c'est que le match aller bascule sur le CSC de Sissako, je crois, pour le Mali.
Ouais.
Et finalement, c'est toute la double confrontation qui bascule là-dessus, quoi. Donc voilà, parce qu'en plus, il se fait expulser, je crois, après avoir marqué contre son camp. Donc vraiment, il a tout gagné sur ce match aller. Et ouais, non, une Coupe du Monde ratée. Je crois que j'ai aucun souvenir du personnel du Mali à la Coupe du Monde. Je pense pas que je l'ai vu en faire une seule.
Ben en tout cas, pas dans notre existence, ouais. Je vais regarder, mais.
Non, mais dans notre existence, non, j'en suis quasi sûr. Mais avant, c'est possible, hein, mais bref, oui, ça sera pas pour cette fois. Alors que c'est vrai que il y a quand même une génération qui arrive qui est pas inintéressante. Parce que, notamment milieu de terrain, parce qu'en fait, ils ont tous les milieux de Leipzig.
Ben, ils n'ont jamais fait de Coupe du Monde le Mali, si je crois,
Ils n'en ont jamais
Wikipédia.
fait, d'accord, ok. Ouais, je vois ça. Et donc, oui, ils ont tous les milieux de Leipzig, notamment Aïdara, Emalien, comment il s'appelle?
Ça m'a secoué.
Samaseku, voilà, exactement, merci Christophe qui est de retour. Samaseku et le petit Camara qui est en train
Ouais,
de sortir à Salzbourg aussi.
super joueur.
Donc, ils ont vraiment une base intéressante et autour de ce milieu, il y a quelques joueurs sympathiques. Il y a Marie Traoré aussi de Rennes,
Ouais.
mais bon, ça sera pas pour cette fois non plus, ouais, pour eux.
C'est dommage, ça aurait été bien de voir un peu de nouveauté. Après, j'ai rien contre les équipes qui se sont qualifiées. Mais de voir un petit peu de nouveauté sur les qualifiés, ça aurait été bien. Pour la Coupe du Monde et puis pour les pays concernés. Est-ce que Christophe, tu veux rajouter un point sur la zone Afrique ou une question, une interrogation?
Le fait est que je vous avais perdu pendant 3 minutes au début de ton anecdote, donc à un moment je vais devoir me transformer en auditeur une fois qu'on aura fini d'enregistrer, où je vais réécouter comme tous les gens qui ne sont pas dans cet enregistrement ce que tu as dit. Non, bah, j'ai peur en fait du coup de répéter ce qui vient d'être dit
Non, en
sans que je le
gros,
sache.
on a fait un point rapide match par match, mais je crois que tu voulais nous. Je crois que tu te demandais toi-même quel était le niveau de la zone Afrique. Parce qu'il y a d'ailleurs eu pas mal de gens qui discutaient du nombre de places réservées à l'Afrique. Est-ce qu'elle devrait en avoir plus? Comment ça se passera en 2026 quand il y aura 48 équipes? Je crois qu'elles auront 9 places, les équipes africaines.
Ouais, c'est ça. Notamment
Mais c'est
Ricardo
très.
Fati, qui est quelqu'un qu'en plus qu'on apprécie, hein, qu'on a eu sur Copa Arena, etc., mais qui parlait de, en gros, l'Afrique mérite plus de place. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que, dire, le parcours soit un vrai parcours du combattant, parce que t'as pas forcément toute cette notion de tête de série, etc., qui fait qu'a priori.
Je te laisse finir après, Christophe. Je pense qu'il y a un côté regret aussi parce qu'il y a des équipes du même niveau que ceux qui se sont qualifiés qui n'y seront pas alors que ce sont des belles équipes. On peut penser aux Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, pardon, au Nigeria, des équipes comme ça qui auraient pu apporter des choses à la compète.
C'est ça, mais il y a un petit côté. Alors, le Côte d'Ivoire, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, le match face à la France était bon. Mais là, sur les matchs de barrage, on sent que c'était beaucoup d'élèves moyens qui s'affrontaient, quoi, de 5 ou 6 sur 10. Et c'est vrai que, en fait, je vois, par exemple, le Nigeria, et tu vois, pareil, le Mali, tu vois, franchement, le 11, le réservoir et tout, tu fais, putain, c'est quand même bête que ça soit pas à la Coupe du Monde. Et en fait, tu vois les matchs et tu fais, bah, non. Et genre, même le Sénégal, par exemple, honnêtement, il n'y a pas une énorme disparité de talent. Alors, il y a quand même quelques gens où tu dis, tiens, Salou Siss, qui est dernier de Ligue 2 avec Nancy, il se retrouve titulaire avec le Sénégal au milieu de Koulibaly, de Mendy, de Mané, effectivement, c'est quand même un truc, mais ça arrive dans d'autres sélections.
Il
Mais.
était excellent à la CAN en plus.
Ouais, non, mais c'est ça, mais je veux dire. Mais tu te dis, il y a des équipes où il y a vraiment 5-6 joueurs de très bon niveau, et en fait, tu vois sur le terrain et tu fais, bon. C'est. Et j'étais vraiment déçu, alors que j'arrivais, d'ailleurs, je suis resté sur ces matchs-là plutôt que de regarder l'équipe de France, donc ça veut dire que vraiment, j'y allais en espérant me régaler, il y avait de l'enjeu, tout ça. Et ouais, non, et je suis pas sûr que ça s'améliore, pourquoi? Après, on verra. Hein. Mais c'est vrai que je suis pas certain que le message envoyé par certains résultats soit forcément le bon pour la construction. Je m'explique, le Cameroun vient de changer de sélectionneur, a rempli son objectif d'aller à la Coupe du Monde, mais avec une manière qui est quand même un petit peu décevante, alors que Belmadi avait construit un truc sur la durée avec l'Algérie. Je pense que le Maroc a des chances de changer d'entraîneur, et c'est un peu la spéciale Vaïd, parce que avec les problèmes avec Ziyech Mazraoui, je suis pas sûr qu'il y résiste.
Et
Le frère
Amrabat
Amrabat
qui
aussi,
s'est rajouté.
absolument. Là, le Ghana vient de changer de sélectionneur, et le Ghana passe sans avoir trop joué au foot avec un gardien de D4, mais avec une erreur du gardien nigérian et le but à l'extérieur. Enfin bref, je à voir, hein, mais je me dis que, bah, par exemple, le fait que le Cameroun passe et pas l'Algérie, t'es un dirigeant de fédération africaine, est-ce que tu as envie forcément de choisir le modèle algérien? Qui a amené une canne, hein. Mais où est-ce que tu dis, bah, finalement, l'entraîneur, tout ça, la tactique, ça change pas grand-chose pour gagner des matchs couperet, il faut simplement avoir un peu de chance et aller au combat et mettre du cœur, de l'envie, etc. Donc c'est vrai que ça m'embête un peu, alors que moi je suis toujours sur le truc, j'aime bien que des équipes qui ont un modèle que j'estime vertueux dans le temps performent pour que ça donne envie à d'autres de faire à peu près la même chose.
Sachant que c'est dur en zone Afrique, mais c'est très très dur la zone CONMEBOL aussi. Hein. Le Chili va pas faire la Coupe du Monde, la Colombie va pas faire la Coupe du Monde, le Pérou c'est pas sûr parce qu'ils ont un
Ouais,
barrage contre
Paraguay sera pas.
le.
Ouais, mais la CONMEBOL, c'est 5 sur 10.
Oui,
Mais c'est un. Mais
c'est avec un. C'est homogène, c'est plus homogène évidemment.
Or Bolivie, et... Venezuela, même si Bolivie, sachant tu rigoles que... quand tu joues là-bas. Mais...
Sachant que l'Amérique du Sud, c'est 5 sur 10, mais l'Argentine et le Brésil, ils sont toujours. Donc en fait, c'est 3 sur 8. Tu vois. Enfin, c'est beau, c'est
oui, oui,
le ratio est pas aussi. Voilà, le ratio.
Non, mais je veux dire que la dernière Copa América, je sais pas si c'était mieux ou moins bien que la dernière CAN, en fait.
Non, je dis pas que dans le jeu c'est mieux, mais il y a des bons joueurs aussi qui vont.
Non,
pas...
mais si tu veux un souci par rapport à cette distribution là, en effet, il y a quand même une question que tu peux te poser sur la CONMEBOL et pourquoi il y a. Alors je sais qu'il y a une Amérique du Sud, une Amérique du Nord, mais bon, pourquoi tu regrouperais pas quand même ces deux zones.
Après, il y a des pays avec des un nombre d'habitants assez incroyable. C'est aussi le cas de l'Afrique, tu vois, mais c'est vrai que c'est divisé en beaucoup moins de pays que l'Afrique. Que je sais pas. Il faudrait. C'est vrai que si tu prends la taille du Brésil et tu fais la même zone à peu près en Afrique, je pense que tu fais une sélection All-Star assez incroyable. Ça marche pas comme ça, la géographie, mais c'est des questions aussi qui peuvent se poser. Et d'ailleurs, le tirage au sort, la façon de tirer les poules a changé d'ailleurs depuis la dernière édition de la Coupe du Monde. C'est aussi pour ça qu'on va pouvoir parler des poules et qu'il n'y a pas forcément de groupe de la mort. Puisque c'est maintenant, avec les classements FIFA refaits et les séparations entre les zones les continentales, ça t'évite d'avoir des grosses poules. On va faire un point par point très rapide de chaque poule avec ce qui vous intéresse le plus. Ça peut être un joueur, un coach, un match. Il faut qu'on aille vite. Le groupe A, Qatar, Pays-Bas, Sénégal, Équateur. Un joueur, un coach, un match, peu importe. C'est des coups de fusil. Vas-y, Christophe.
Le Qatar, parce que pour un pays hôte, voilà, dont on se dit qu'il ne se serait pas forcément qualifié si jamais il n'avait pas eu l'opportunité d'être qualifié directement. Le Qatar a gagné la Coupe d'Asie. Le Qatar a fait aussi des performances. Alors, il était invité à peu près sur tous les tournois, mais Copa América, etc. Honnêtement, le Qatar se défendait bien. Il y a une vraie patte espagnole, pas que Xavi avec Al Sadd à l'époque en club, hein, mais aussi au niveau de la sélection.
Avec la Spire Academy notamment.
C'est ça, voilà. Qui vraiment, il y a ce côté, on joue au sol, voilà. Et j'ai envie de voir. Je pense qu'il y a des chances qu'ils se prennent, peut-être pas une branlée, mais qu'ils souffrent sur notamment le match face aux Pays-Bas. Mais finalement, ça m'intéresse parce qu'il y a pas mal d'équipes où, certaines équipes africaines, finalement, tu as super individualités. L'équipe, bon, c'est sans doute inférieure à la somme des individualités. J'ai l'impression que le Qatar, alors avec des individualités vraiment basses, donc peut-être que le total va monter moins haut, mais maximise quand même les qualités de joueurs. Donc il y a un côté aussi nouveauté, finalement. On n'a jamais vu le Qatar à ce niveau de compétition-là. J'ai envie de voir ça. Il se peut que ça soit très vite réglé et que ça joue bien au foot et que ça ait 70% de possession sur un match face à l'Équateur et que ça prenne 4-0 avec des têtes d'Ener Valencia qui va leur dunker sur la tête. Mais j'ai envie de voir ça.
L'Équateur, belle génération aussi, avec les joueurs notamment de l'Independiente del Valle. Ce sera intéressant de suivre ça. Flo, tu veux passer au groupe B ? Pas de points sur le groupe A ?
Non, mais juste le Sénégal-Pays-Bas, le premier jour de la Coupe du Monde, ça peut être sympathique.
Ah, ça peut être fun. Je ne savais pas que le calendrier était sorti aussi. Ça peut être sympa. Groupe B, Angleterre, États-Unis, Iran. Diplomatiquement, déjà, c'est intéressant.
Oui,
et
voilà.
Le dernier qualifié sera soit le Pays de Galles, soit l'Écosse, soit l'Ukraine.
Je pense que c'est le seul truc intéressant du groupe. États-Unis, Iran dans le même groupe. Je crois que c'est déjà arrivé.
C'est vrai que c'est pas Angleterre, États-Unis.
Non ? Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible.
Angleterre, États-Unis, Iran, Ukraine. Je pense que l'Iran se sentira un peu seul dans cette poule sur le plan politique.
Mais non, ouais, j'ai pas grand chose à raconter. Je pense que on risque de pas mal s'ennuyer dans ce groupe quand même sur le premier tour. Hein.
Ouais, ça sera pas le plus beau, ça c'est sûr. Surtout que l'Iran, si ça a pas changé, ça va être bloc bas et on fait courir un mec. En fait, l'Iran, c'est l'Égypte sans Mohamed Salah, j'ai l'impression.
Après, il y a quand même un côté Carlos Queiroz. Quand Carlos Queiroz va quelque part, l'équipe arrête de jouer au foot. Donc de ne plus avoir Carlos Queiroz et de ne pas avoir Carlos a priori à la Coupe du Monde, on s'en satisfait, même s'il pourra toujours retrouver une sélection.
La question dans le groupe A, c'est combien de temps d'arrêt de jeu il y aura sur les matchs du Qatar, parce qu'il y avait eu des folies lors de la dernière Arab Cup. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un Qatar-Algérie qui s'est fini à la 90e plus 17 avec un but de Belaïli en toute fin de partie.
Le but du milieu de terrain.
Il y a eu quelques folies. Non, je crois que c'était face au Maroc.
Ah oui, exact. Ça.
Mais non, le 90e plus 17, c'est quand le Qatar égalise déjà à la 97e.
Ah oui.
Et Belaïli met à la 90 plus 17. Mais le deuxième but, c'est là qu'il va fêter devant l'arbitre de manière assez expansive et le lendemain son contrat est rompu avec le Qatar dans lequel il jouait. Enfin, je sais pas si c'est lié, mais
il y a bien eu un USA Iran en 98, victoire de
l'Iran.
L'Iran 2 avec notamment le but de Mehdi Madavi, pour ceux qui se souviennent de ce joueur.
C'est vrai que le gros B sera pas forcément celui dont on attendra le plus les rencontres. États-Unis à voir, il y aura peut-être des joueurs, mais j'ai l'impression que collectivement c'est pas incroyable. D'ailleurs, ils ont pas brillé dans la zone CONCACAF.
Ah non, ils passent groupe vite.
Groupe C, Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite.
Ce qui est bien pour l'Argentine, c'est qu'ils démarrent par l'Arabie Saoudite. Donc ils peuvent.
D'Hervé Renard,
absolument. Qui était très beau, très bronzé au tirage de sort.
Et lui, je pense que c'est un oiseau migrateur en fait. Il va toujours là où il y a du soleil parce qu'il n'est jamais pâle.
Et Mexique-Pologne, quand t'es l'Argentine dans l'état où ils sont à l'heure actuelle, je suis pas sûr que tu sois très, très heureux.
Pour moi, ils n'ont pas beaucoup de marge.
Non, pour moi, il y a très peu de marge aussi. Et le Mexique est toujours une équipe qui est bonne au premier tour.
Le Mexique est toujours les meilleurs en 8e. Donc...
Voilà, ils se font toujours taper en 8e.
Ils sont toujours sympas à avoir joué en plus.
Mais tu vois, la Pologne, typiquement, dans le mode de l'équipe de 2016 et pas l'équipe de 2020, de l'Euro 2021 qui ressemblait pas à grand chose avec Paulo Sousa. Mais l'équipe de 2016. Dans l'idée, qui retrouve ses bases avec un bloc bas, des ailiers très rapides, deux joueurs très bons devant, Zelinski au milieu, une équipe très physique et qui est capable de mettre beaucoup d'intensité dans ce qu'elle fait offensivement, avec en plus Lewandowski qui se retrouverait entre deux défenseurs centraux argentins. C'est qui les défenseurs centraux argentins au niveau aujourd'hui?
Ils peuvent mettre Lewandowski, Milik et envoyer des centres, ça peut être le projet.
Aussi. Donc je me dis franchement que la Pologne avec ce qu'ils savent faire, s'ils reviennent à ce qu'ils savent faire, ils peuvent vraiment poser des problèmes à l'Argentine et au Mexique aussi évidemment. Je me dis que ce groupe c'est pas celui de la mort parce qu'il y a pas quatre grosses équipes, mais franchement entre les trois
c'est là qu'un gros peut sauter quoi.
S'il y a un gros qui saute dans ce groupe-là, ça me surprendrait pas.
Et on espère surtout la présence de l'immense Pazdan.
Et ça, c'est un groupe important puisque c'est le groupe que va croiser l'équipe de France au tour suivant.
Moi, mon truc, c'est le savoir qui l'Argentine va aligner devant. Et j'aimerais bien. S'il y a une partie où je le connais pas assez, donc du coup j'ai envie de le découvrir. Ça se trouve, le mec n'est pas aussi bon que ça.
Je sais ce que tu vas dire.
Mais j'ai envie de voir Julian Alvarez,
qui
a signé à City, qui écrabouille tout. Notamment sur le plan statistique avec River en Argentine et une espèce de colonne vertébrale 8-19 avec deux pôles derrière Messi, derrière Alvarez. Après, ça se trouve, Alvarez ne sera pas au niveau. Hein. Encore une fois, il y a un côté un peu exotique où peut-être que les mecs ils le voient chaque semaine. Pour eux, c'est plus forcément une nouveauté, mais c'est un peu le truc qui m'intéresse. Je t'avoue que le Mexique est toujours sympa, Pologne, Arabie Saoudite, ça m'excite pas tellement.
Le groupe D, le groupe de la France, Danemark, Tunisie, et donc Pérou, ou Émirats Arabes Unis, ou Australie. Parce qu'on ne connaît pas encore les quatrièmes qualifiés de ce groupe. Flo ?
Ce qui peut être très drôle, c'est que tu peux quand même te retrouver dans le groupe avec deux adversaires que tu avais en 2018.
Ah ouais,
puisque tu as déjà le Danemark.
Quel match ça avait donné ça.
T'as déjà le Danemark, et en plus...
C'est pas le même Danemark, par contre, c'est ça qui est bien.
C'est pas le même Danemark, mais en plus, sans faire allégeure aux Émirats, t'as quand même plus de chances de prendre l'Australie ou le Pérou, je pense. Et Australie et Pérou étaient aussi dans le groupe, tous les deux. Donc voilà, ça va être rigolo. Moi, juste pour la Tunisie, j'espère, souvenir de 2018, qu'ils seront meilleurs sur coup de pied arrêté. Parce que ça avait été une catastrophe.
C'est pas eux qu'on avait pris 6.
Si, vous rappelez. Si, dont 3 corners ou quelque chose comme ça face à l'Angleterre.
C'est grâce à eux qu'Harry Kane avait été meilleur buteur, je crois, non ?
Ça avait été très très compliqué pour eux sur ces phases-là, donc j'espère qu'ils les ont bossés. J'ai pas souvenir de
le
but en question sur coup de pied arrêté.
C'est eux ou c'est le Panama qu'on avait pris 6, ou les deux ?
Je crois qu'ils avaient pris une.
Pour moi, le Panama en prend 6 et eux prenaient que des buts sur corner. Mais...
C'est vrai que ouais, je ne me sens pas un 6 pour la Tunisie, mais c'est vrai qu'ils sur coup de pied arrêté, ils étaient assez fébriles.
C'était un peu compliqué pour être poli.
Je te laisse vérifier ça, Flo. Je sais que tu es en train. Je te vois zioter, à mon avis, les Wikipédia de la Coupe du Monde 2018.
Et sinon, moi, c'est le Danemark. J'ai vu une bonne partie de Danemark-Pays-Bas. Alors, sur la chaîne L'Équipe, ils étaient on fire. Genre, c'est le meilleur match international amical de récente mémoire. Bon, il y a quand même eu certains matchs de l'Espagne de Lopetegui qui étaient assez énormes, ou certains matchs de l'Allemagne.
On avait adoré le Danemark à l'Euro déjà.
Totalement dans la lignée de ce qu'a fait le Danemark à l'Euro, et avec un Eriksen qui a mis deux lucarnes, enfin une lucarne et une frappe, une frappe petit filet sur ses deux matchs de retour, en plus à Amsterdam, là où il jouait avant, et puis dans le stade où il avait eu son malaise cardiaque. Donc honnêtement, ouais. je pense qu'il y a une certaine garantie de beau jeu avec le Danemark, même sur une échéance à 5-6 mois.
Alors la Tunisie avait perdu 2-1 face à l'Angleterre avec des buts de Kane, un doublé de Kane, dont un but de Kane sur une passe de Maguire dans les arrêts de jeu, donc ça j'imagine que c'était coup de pied arrêté. Ensuite, ils avaient pris 5-2 contre la Belgique.
Ah, quand même.
Voilà le match. Et en effet, c'est l'Angleterre qui avait mis 600 au Panama.
Ah.
Et le dernier match, la Tunisie avait battu le Panama 2-1. Mais ouais, je crois qu'il y avait pas mal de buts sur coup de pied arrêté, il me semble, dans ce qu'ils avaient encaissé.
Bon, dans la logique, ça devrait être France-Danemark, mais sait-on jamais. Dans une Coupe du Monde, ça peut aller vite. Groupe E, là, du coup, il y a quand même deux gros, Espagne-Allemagne, Japon. Et donc, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. C'est assez cruel pour le Japon, qui est une équipe qui envoie toujours des moments sympas, mais là ça va être quand même très très difficile quand tu vois ce que proposent les deux équipes, avec quand même une avance pour l'Espagne parce que l'Allemagne a plus trop de certitudes depuis quelques années.
Ouais, même si l'Allemagne de Flick c'est pas l'Allemagne de Love, mais quand même je trouve que ça retrouve quand même des certitudes. Par contre, c'est le match pour moi à scène.
C'est dans quel ordre d'ailleurs?
Je pense.
Ça commence par Allemagne, Japon et Espagne, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. Et deuxième journée, c'est Espagne-Allemagne.
Ah, donc ça peut être fun quand même. Peut y avoir un enjeu à la troisième journée si Espagne-Allemagne, il y en a une des deux équipes qui perd.
Mais je pense que le Espagne-Allemagne va être un match incroyable. À voir, hein. Mais je suis pas sûr que par exemple l'Espagne sorte du. Enfin, en tout cas, que les deux se qualifient. Et au final, chaque année, chaque édition, il y a des grosses équipes qui sortent. Hein, je veux dire, l'Allemagne est bien placée pour le savoir. L'Italie a déjà été éliminée par la Slovaquie. Enfin, il y a pas mal de précédents. Honnêtement, je suis pas, même si l'Espagne joue bien, tout ça, je suis pas hyper rassuré pour l'Espagne quand j'imagine Mitoma et puis Kai Havertz et puis tous les mecs qui peuvent lui faire mal derrière parce que la charnière, la porte Torres ou autre, je suis pas ultra client. Limite l'Espagne est l'équipe que j'aime le plus dans le monde, mais enfin, en tout cas sur son jeu actuel, son milieu, le Pedri, Gavi, Busquets, enfin, tous ces mecs là c'est top.
Pour moi Pedri suffit à te contrôler tous les matchs déjà, donc,
mais c'est ça, mais je pense que tu vas manger 2-3 transitions, ne serait-ce que le Werner Mitoma par exemple soit bien préparé quand même et mène 1-0 avant pour être sûr, quoi.
Oui, mais bon, Pedri, un an et demi après son euro, je suis très curieux de voir où il en sera. Il aura peut-être un peu vécu une saison moins calvaire, donc ça peut être assez fou, parce que là, il revient à un niveau assez incroyable en club aussi. Costa Rica et Nouvelle-Zélande, bon, Costa Rica, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, et Nouvelle-Zélande, à chaque fois, ils viennent pour prendre des roustes, donc j'ai pas l'impression qu'ils aient une génération qui change beaucoup les choses.
Ils ont Bill Tuiloma, l'ancien de la réserve de Marseille, qui marque des buts, sinon c'est les centres pour Chris Wood, hein, j'ai l'impression, et de l'autre côté, c'est Navas, quoi.
À ne pas confondre avec Bill du Big Deal, qui n'est pas convoqué en sélection pour l'instant. Mais
énorme radin, Bill du Big Deal.
Bill du Big Deal, et c'était le Shrek avant Shrek. Groupe F, Belgique, Croatie, Maroc, Canada. Je trouve ce groupe plutôt sympa.
Oui, groupe plutôt sympa. Groupe qui va croiser Espagne-Allemagne. Donc, pas cadeau, sauf s'il y a surprise, comme le pensait Christophe.
Est-ce que la Belgique peut pas se faire sauter dans ce groupe?
En fait, moi, ça sera peut-être totalement faux parce qu'ils ont pris une habitude de briller en Coupe du Monde, mais j'ai beaucoup de mal à croire dans la Croatie dans un an. Donc, je penche plus pour une surprise et une Croatie qui passe pas que la Belgique qui se fait sauter. Mais je laisse.
Parce que là, pour moi, il y a quand même quatre équipes. Enfin, non, il y a Belgique et Croatie, et les deux autres équipes ont une dynamique relativement positive, notamment le Canada. Le Maroc, il y a quand même des bons joueurs. À voir ce qu'il en sera avec Veil et compagnie. Mais c'est pour moi un groupe.
Par contre, je pense que le Maroc peut sortir du groupe.
Le plus homogène, peut-être.
Par contre, je pense que le Maroc peut sortir du groupe. Mais ce qui est vraiment dommage pour ces équipes-là, c'est que tu risques de croiser un très très gros dès les 8e. Avec ce qui s'est passé dans le tirage du groupe E.
Moi, c'est curieux du Canada, qui a dominé sa poule de qualif, qui est passé assez facilement. Bon, la défaite contre le Panama la dernière journée, avec Jonathan David qui joue 90 minutes. Je veux dire qu'Alil, ils étaient très contents de le voir jouer 90 minutes sur un match sans enjeu. Fond qui passe chapeau 4, je crois que si ça gagnait, le Canada était chapeau supérieur. Donc peut-être que du coup, ils auraient eu un tirage un petit peu plus favorable. Mais je connais quelques-uns de ces joueurs, évidemment, mais pas forcément tous. Et je suis un peu... Franchement, j'ai juste aperçu des séquences pour voir David pour mon boulot à droite à gauche dans le suivi de Lille. Donc je suis curieux de voir un peu comment tout ça s'anime, parce que c'est une équipe qui avait déjà des individualités avant, mais ça clipsait pas forcément hyper bien. Après, et là, d'un coup, c'est hyper bon, quoi.
Je pense qu'il y aura un trop gros écart entre leurs meilleurs joueurs et les moins bons, par contre.
Bah justement, j'ai envie de voir les moins bons, en fait. Genre, est-ce qu'ils sont vraiment moins bons, ou c'est comme en Arabie Saoudite, où, vu d'ici, on les connaît pas, mais en fait, ils ont pas mal de joueurs très très cohérents.
Bon, en tout cas, ce sera cool de les voir, et on espère une belle compétition de leur part. Groupe G, Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun. Est-ce que c'est pas l'équipe, le groupe où il y a le plus grand écart entre le chapeau 1 et les trois autres équipes?
Si.
Oui, peut-être. Après, c'est aussi à 3 sur 4, comme le probable groupe de la France après le barrage. Brésil, Suisse, Serbie, ils étaient ensemble aussi en 2018. C'est une redite.
Et on se souvient de Shakiri, Chaka, face à la Serbie.
Faisant l'aigle, absolument.
C'était toujours un beau moment de géopolitique et de sport.
Mais là, on va l'avoir à nouveau. Ouais. Ça sera le troisième match, d'ailleurs. Je crois que c'était ça aussi en 2018.
Pour la qualif, ça peut être fun, ça.
Pour moi, c'était le deuxième. Je crois que la Serbie est éliminée.
C'était le deuxième.
Parce qu'il ne...
Contre le Brésil.
Parce que, ouais, parce que en gros, tu sais qu'ils doivent battre le Brésil ou faire.
Est-ce que j'aimerais bien savoir, ça n'est pas encore dispo, mais la cote de carton rouge lors de Suisse-Serbie. Parce qu'à mon avis, c'est quand même un.
Bon, en plus, t'as les mecs de l'autre côté, genre Mitrovic, si t'es mené.
Bon. Ce sont des équipes de caractère.
Mais moi, j'ai vu beaucoup le Brésil, en fait, paradoxalement. Enfin, pas paradoxalement, mais souvent, c'est un peu les heures à laquelle je suis en train
parce
de
que tu
veiller.
Te couches tard.
C'est ça, et vers 1h du mat, souvent, le Brésil joue. Et à chaque fois que je regarde le Brésil, je trouve ça incroyable. Et à chaque fois, de limite, t'as des ailiers différents. Et c'est toujours très bien, ils ont quand même un réservoir assez énorme. Donc, est-ce que qui de Rafinha, de Anthony, etc., jouera, je ne sais pas. Mais j'espère que le Brésil va garder ses idées offensives, même si elles n'ont pas forcément payé ces derniers temps en grande compétition, parce que c'est pas le Brésil 2002 qui avait quelques mecs offensifs et tout le reste était là pour détruire. Là, même à la construction, quand tu vois des Bruno ou autres, il y a quand même beaucoup de joueurs de foot, donc très intéressant. Et puis peut-être que Daniel Alves sera encore titulaire, qui sait.
Ouais, mais on verra. Franchement, vu le groupe, le Cameroun n'est pas très fort, mais si ça tourne bien, c'est un événement favorable. Pourquoi pas jouer la qualif sur la troisième rencontre pour le Cameroun, sauf si ça joue le Brésil sur la troisième, où là ce sera peut-être plus dur. Mais
ça joue le Brésil sur la troisième.
Ah bah bon, bah il faudra gagner les deux avant, ou faire
voilà,
au moins 4 points,
Raphaël,
ou faire au moins 4 points sur
pour
les
cet insight.
Bah écoute, je sais pas, j'ai découvert, je suis rentré très vite après la séance, j'ai raté le tirage en direct, hein, donc Christophe, tu voulais dire un truc?
Non, je voulais juste dire le Brésil démobilisé, mais en fait je me suis corrigé, même démobilisé, l'équipe B du Brésil sera mobilisée pour justement essayer de gagner sa place pour les 8e, et les remplaçants brésiliens, même par exemple un joueur, je suis pas ultra fan, mais Richarlison par exemple, je pense qu'il peut faire très mal à beaucoup de défenses sur ce premier tour, quoi.
Si ton attaque B c'est Richarlison, Rafinha et Firmino,
ça reste
correct.
Ou voilà, Jesus, ou ouais,
y a du ou Anthony s'il n'est pas titulaire, enfin on verra bien comment ça se passe d'ici là. Le groupe H, le dernier groupe, le groupe où le Portugal va être éliminé. Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana.
Oui, bah, c'est peut-être ce groupe-là où il y a le plus d'écart entre
je sais pas.
Les premiers et les autres.
Je sais pas ce que vaut l'Uruguay.
Je sais pas si l'Uruguay est très loin du Portugal.
J'ai pas l'impression qu'il vaille plus grand chose l'Uruguay. Mais...
En fait, je les ai vus jouer, mais ça reste très bizarre à analyser.
Mais ils se sont qualifiés tranquilles, alors que c'était pas le cas les dernières années. Ils se sont qualifiés tranquilles.
Mais c'est pas beau à voir jouer en même temps. J'ai l'impression qu'en fait, ils font à peu près toujours les mêmes qualifs, c'est peut-être une impression. Hein. Mais qu'en gros, ils peuvent faire soit une hyper bonne grande compétition, enfin une phase finale, soit une très mauvaise, mais qu'au final, t'as pas forcément d'indice sur leur phase qualif qui te dirait ah là, ils vont être bons, là, ils vont pas être bons, quoi.
Combien de buts Darwin Núñez marque dans la phase de poule?
Ouais. Après, ouais, c'est vrai que le gardien ghanéen m'a pas l'air d'être un génie du foot. Donc, mais honnêtement, ce groupe-là me passionne pas du tout.
Ouais, oui, oui. Non, bah, y a pas de, ça va pas.
C'est très personnel.
Ça va pas envoyer beaucoup de jeux, c'est ça le souci, je pense. Par contre, le Portugal va devoir en faire, donc ça sera un bon indicateur des progrès qu'ils ont fait là-dessus, parce que je pense que personne leur prendra le ballon. Donc ils vont se retrouver dans une configuration que Fernando Santos apprécie pas forcément.
Sachant que Portugal Uruguay ils sont déjà joués en la fois dernière en 8e,
ouais, 8e,
et que le Ghana Uruguay se sont joués en quart à l'époque avec Azamoa Gion.
un match rempli de péripéties.
Même si, vous me direz, au bout d'un moment, il n'y a pas non plus un pool de 200 équipes qui vont à chaque fois à la Coupe du Monde, donc tu es quand même amené à te recroiser. Mais là, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même pas mal de... déjà deux groupes, où, à mon avis, il y aura trois équipes qui étaient déjà là lors de la compète précédente. Il n'y a pas non plus énormément. Limite, c'est le... Alors, pour moi, c'est presque le groupe A qui est le plus intéressant sur le côté exotique, original, quoi, le côté nouveauté avec le F. Peut-être.
C'est vrai que j'ai pas souvenir d'un Pays-Bas-Sénégal, d'un Pays-Bas-Équateur ou d'un Sénégal-Équateur, deux matchs comme ça. Donc ce sera intéressant. Le Argentine-Mexique-Pologne-Arabie Saoudite, aussi, il y a un peu de nouveauté, même si Argentine-Mexique, j'ai l'impression qu'on le voit tous les 4 ans.
Donc on verra comment ça se passe. Maxi Rodriguez à l'époque, la volée.
Oui, 2006, grand match. Le Mexique qui était déjà très, très cool à avoir joué en 2006.
Et qui était meilleur que l'Argentine ce jour-là.
Ouais, mais l'Argentine a fait une belle Coupe du Monde aussi. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur le tirage au sort de cette Coupe du Monde, ou on a fait le tour ?
Non, on a fait le tour.
Non. Rendez-vous dans quelques mois pour l'évolution de tout ça, parce que, encore une fois, pour la France, on est à peu près câblé, mais il y a des sélections qu'on suit un peu de loin, et on peut imaginer que des joueurs émergent. On a assez peu de temps, quand tu vois Gavi par exemple qui se retrouvait titulaire à Ligue des Nations alors que quelques semaines avant il n'avait jamais joué chez les pros, on se dit que sur 7-8 mois il peut se passer pas mal de trucs.
Rendez-vous en juin, puisque Flo disait qu'il y avait pas mal de matchs en juin, dans l'occasion de parler des matchs internationaux, déjà de l'équipe de France et des autres. Quand est-ce qu'on se retrouve lors du prochain épisode ? Il y a la Ligue des Champions cette semaine, mais il n'y a plus que le club français dans la Ligue des Champions, il y a aussi la Ligue Europa Conférence, je suppose, il y a de la Ligue 1 ce week-end. Comment tu vois la chose, Florent, toi qui es le grand Manitou ?
Jeudi après les matchs de Ligue Europa.
Oui, parce que ce week-end il y a un Nice-Rennes, mais en dehors de ça, pas forcément grand chose en Ligue 1, parce qu'il n'y a pas de confrontation directe entre des gros. Donc on reviendra la semaine prochaine pour parler Coupe d'Europe, pour parler du coup de Marseille, pour parler de Lyon.
C'est ça.
Et pour parler peut-être des matchs de Ligue des Champions quand même, parce qu'il y a un Chelsea-Real qui peut être sympa, un City-Atlético, et puis. On parlera sans doute de ces deux gros matchs-là. Merci messieurs pour cet épisode spécial Trêve internationale et Coupe du Monde. À la semaine pro pour parler Coupe d'Europe. Ciao.
Salut.
Cordialement.